Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 249e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 11 juin 2015 et au programme de ce soir, du DC avec notamment la sortie très attendue du Batman 41, le renouveau de Batman, le fameux Bat Bunny. Nous parlerons aussi de Earth 2 Society, de Catwoman ou encore de All-Star Section 8. La partie indé reviendra sur la fin de Chrononauts, une nouvelle série chez Dark Horse, Midnight Society ou encore Walking Dead. Et puis enfin, chez Marvel, des tie-ins à Secret Wars, en veux-tu en voilà, avec notamment du Weird World, Marvel Zombie, Mrs. Deadpool, Ghost Racers et Ultimate End, que Kiwi continue de lire. Je suis Steam et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous présenter tous ces nouveaux comics, Mister René Bunny.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et Kiwi.
Bonsoir les petits et les grands.
Kiwi
les
Kid,
enfants,
d'ailleurs.
Les parents.
Kiwi Kid, puisque j'ai même pas cité ton nom en entier.
Oui, mais tu sais, j'ai l'habitude.
Mais maintenant, on peut peut-être t'appeler Kiwi Man.
Non, je reste Kiwi Kid, tu vois, un peu comme... Je ne sais pas, un peu comme, voilà.
Et oui, comme chez Marvel, la notion d'héritage n'existe pas.
C'est ça. Voilà. Non, je sais pas si tu sais, à la base, en fait, Kiwi Kid était un personnage qui était apparu chez Spider-Man. Voilà. Donc, du coup, il s'est toujours appelé que Kiwi Kid. Voilà.
Ceci explique donc cela.
C'était un personnage de merde dans un arc de merde.
Mais c'était un personnage bien rigolo.
Et en plus, dessiné par Humberto Ramos. Bon, il y en a qui aiment, mais moi pas.
En même temps, si t'avais de bons goûts, on le saurait.
Ben, ça va se vérifier tout de suite, hein.
Oui, alors en même temps, vu qu'on est entièrement d'accord sur tout ce qu'on a lu...
Voilà. Et
Eh bien justement, ne faisons pas attendre les auditeurs. On va leur donner...
On va leur donner ce qu'ils veulent.
On va leur donner ce qu'ils attendent.
Ah, c'est l'émission de l'Apocalypse, hein.
Votre avis sur ce fameux Batman numéro 41, Mister René Bunny, tu nous résumes cet épisode. Oh, combien marquant pour vous, si j'en crois à ce que vous m'avez dit.
Alors, petite correction, il s'agit au fait de Gordon numéro 1 par Scott Snyder et Greg Capullo. Ou plutôt Bat Bunny numéro 1 si on veut, mais en tout cas je n'ai pas vu Batman dans ces pages. Nous avons ce commissaire Gordon, hein, on le savait de toute façon, c'est plus une surprise, qui a enfilé cette combinaison, cette espèce d'armure qui ressemble effectivement à un Bat Bunny, d'ailleurs lui-même le dit, hein, au cours de l'histoire. Ça ressemble plus à un Bat Bunny qu'à Batman, et il fait face à une espèce de monstre d'énergie. Ça fait penser, comme ça, de prime abord, au laser vivant. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Iron Man.
Oui.
Cette espèce d'être qui, à un moment donné, était devenu un être totalement fait d'énergie. Je me rappelle des épisodes de John Romita Jr., enfin dessiné par John Romita Jr., où Iron Man faisait face à cette créature. Et bien là, voilà, on a un petit peu ce côté-là, puisque le côté robotique nous donne encore plus cette impression. En tout cas, moi, ça m'a rappelé ça. Et puis on voit ensuite en flashback la genèse de ce projet, comment Gordon s'est retrouvé à enfiler donc cette armure. Des scènes assez sympas, c'est d'ailleurs les seules scènes sympathiques du comic, c'est les scènes où il discute avec Bullock, qui lui dit que franchement, c'est une grosse idée de merde.
Parce qu'on est d'accord avec Bullock.
On est d'accord avec Bullock, d'ailleurs, Snyder aurait dû écouter Bullock. Bon, je sais que c'est très con, puisque c'est lui qui écrit Bullock, mais il devrait s'écouter réfléchir, parfois. Parce que effectivement, c'est très bête, comme principe. Très franchement, ça fait plus penser à une espèce de Robocop du pauvre qu'à autre chose. Après on voit comment il va affronter cet ennemi et comment il va essayer de déjouer son adversaire.
En fait, on le voit comment il va accepter de devenir le nouveau Batman.
Oui aussi. Ouais,
Voilà.
enfin
C'est,
c'est
enfin, pour moi, c'était
très...
la trame principale de cette histoire, c'était finalement comment Gordon accepte d'être Batman dans le passé et dans le présent, quoi.
Oui, enfin c'est ma
Mais
review
bon.
était
Pardon, excuse-moi.
un...
Mais tu disais,
Voilà.
je ne sais pas, je te sentais un peu en besoin.
Non, non, mais j'ai besoin d'autre chose, mais tu es trop
Mais
loin pour
je peux pas combler tous tes besoins,
Voilà.
tu le sais bien.
Sinon, non, le seul truc qui m'a fait enfin sourire, on va dire, c'est l'espèce de oh, je trouve plus le nom en français.
Alors là, t'es pas en besoin?
Le mec qui s'occupe de faire les designs du robot, quoi, qui se ramène et qui lui montre différents designs. Et bon, enfin, il y a des trucs totalement crétins, comme par exemple le Batman de Zurren Ahr, comme si le gars pouvait être au courant qu'il y avait eu un Batman de Zurren Ahr. Bon, c'est vraiment un gros clin d'œil, quoi, pour les fans. Mais sinon, sorti de là, très franchement, le numéro est très pauvre et, enfin voilà, moi, j'ai, ce qui me scandalise là-dedans, c'est plus le côté, voilà, DC qui se fout un petit peu de notre gueule. S'ils avaient sorti ça sous le nom de Gordon, même avec cette équipe de Snyder et Capullo, ça aurait pas autant vendu que en gardant le titre Batman. Donc c'est vraiment, voilà quoi, c'est vraiment des hypocrites quoi. C'est le fait d'appeler ça Batman, forcément, ça va vendre toujours. Mais je suis désolé, c'est pas Batman. C'est pas Batman. C'est pas ce que j'ai envie de lire quand je prends un comics qui s'appelle Batman. Voilà. Et je vous laisse vous exprimer. Non, lâchez les
Mais
lions.
pour moi, si tu veux, déjà, Snyder n'écrivait pas Batman, parce que bon, Batman c'est quand même un mec qui fait des enquêtes et qui est assez sombre, et lui il a plutôt un Batman James Bond avec plein de gadgets, et voilà, je trouve qu'il écrit mal Batman, et pour le coup je trouve qu'il écrit mal Gordon aussi. Il prend Gordon, qui est un flic, un vieux de la vieille, et il en fait quoi? Il en fait un super soldat à la botte du gouvernement. Voilà, mais c'est... Enfin, je trouvais que ça avait... Enfin, Gordon ne se ressemble même pas. C'est-à-dire qu'il change totalement de look, d'un coup il est musclé, rasé.
Après, c'est Norman Osborn, ouais.
Oui, voilà, enfin c'est enfin tu reconnais même pas les personnages quoi, ça a pas de sens. C'est enfin tu vois, t'as Gordon qui dit vite fait, ah ouais, c'est vrai, c'est effectivement, c'est pas je pourrais devenir Batman, mais bon, ce serait quand même un peu chelou, mais bon, je vais quand même le faire. Et puis à la fin, ouais, c'est totalement Batman quoi. Enfin, c'est le C'est le mec du style, il a nouveau 20 ans, et puis il peut encaisser le coup, quoi. Puis pareil, c'est tout con, hein, mais des détails comme dire que Gordon a 45 ans, moi, ça me fait chier. Je suis désolé, non, il est trop jeune à ce niveau-là. Parce que, déjà, Bruce Wayne, pour moi, c'est un mec qui devrait avoir 40 ans. Donc, Gordon, non, il devrait en avoir 60, ouais, être plus proche de la retraite,
Bah, si ça continue, Batman, il va être plus jeune que nous, hein. C'est quand même dramatique, quoi.
Bah ouais. C'est ça, quoi. Mais voilà, au-delà de ça, alors c'est ce que je disais à Benny en off, en fait. Je trouve que DC en ce moment a certaines idées, mais ils exploitent hyper mal.
Tu m'as pas dit ça du tout, hein. Tu m'as dit que t'étais super fan et que t'étais in love with DC.
Ah, mais totalement.
Voilà.
Mais bon, au-delà, non.
Et puis t'étais tout nu devant ta webcam quand tu m'as dit ça.
Oui, mais c'était pour te séduire. Qu'est-ce que tu veux que j'enchaîne
Ah
maintenant?
bah t'es meurt de toi,
Foutu connard, quoi.
hein.
Bref. Si on prend l'exemple de We Are Robin. Non,
Quel
non,
enchaînement!
voilà. Non, non, ils ont... Oui, alors tout nu, gamin. Hein, voilà.
Bon, voilà.
Donc, We Are Robin, ils auraient pu faire un truc, faire un gang qui prend le nom de Robin, hein, tout simplement. Et faire comme dans Dark Knight Returns, faire voilà que Batman se retrouve avec une armée dont il ne veut pas. Ça aurait été intéressant. Là, mettre un Batman robotique à la solde du gouvernement parce que Batman a disparu, pourquoi pas? Mais dans ce cas, si on suit Gordon, c'est Gordon qui cherche à savoir qui est ce nouveau Batman, ou voilà mettre en place de nouvelles choses avec Gordon en personnage principal, mais pas faire que Gordon devienne un super soldat qui met une armure de Batman, qui travaille pour le gouvernement. Au bout d'un moment,
Il n'y
enfin,
a
ça
même
n'a
pas de
plus rien à
mystère,
voir
il n'y a
avec...
même pas de mystère. Il n'y a même pas de
Voilà,
mystère. Puis
t'as pas de mystère, t'as pas d'enquête, t'as pas de...
le pire de
T'as pas
tout,
de charme.
c'est qu'il y a encore quelques mois, on disait, en rigolant, tu vois, dans les comic shops, c'était la blague éternelle, quoi. Ouais, c'est qui le prochain Batman? C'est Alfred. Ça semblait tellement ridicule. Mais là, c'est pire que tout, c'est Gordon le prochain Batman, et enfin, le Batman
On avait
actuel.
quand même pas mal de fois cité Gordon, hein. Ça paraissait le choix logique s'il
Oui,
se
non, non,
sortait de
mais
Batman Eternal.
je veux dire, non, mais depuis des années, enfin, je veux dire, ça fait 15 ans que c'est la sempiternelle blague, ah, la prochaine fois que Batman meurt, ça va être Alfred qui va le remplacer, quoi. Enfin, c'était tellement con que de toute façon, voilà, c'est une grosse blague. Et là, on a quand même Gordon, le flic moustachu, qui devient Batman, et en plus dans une espèce d'armure à la con, quoi.
Mais
C'est déprimant.
c'est déprimant, mais ce que je trouve très triste, c'est tous les gens qui ont découvert Batman avec Snyder, pour eux, c'est ça la base, en fait. Tu vois, s'ils sont pas allés voir ailleurs ce qui s'était fait avant, et qu'ils ont pas vu qu'en fait, bah non, Snyder, ouais, il fait des histoires qui sont tapes à l'œil. Ça a l'air cool comme ça, mais au fond, si tu grattes un peu, non, c'est mauvais, quoi. Quand tu lis Zero Year, je suis désolé. Bon, déjà, c'est toujours la même trame de, oh là là, Gotham City est perdu, il y a que Batman qui va pouvoir tout résoudre. Mais tu lis Batman Year One, t'as vachement plus de trucs et de personnages travaillés dans Year One, qui est en juste 4 ou 5 épisodes, que dans tout Zero Year qui a duré un an, quoi.
T'as plus de personnages travaillés dans Black Mirror, qui
Oui,
reste quand même jusqu'à ce jour son meilleur travail sur Batman.
bah, c'était le côté Batman détective qu'il a complètement perdu, et maintenant c'est le Batman blockbuster qui n'a aucun intérêt, qui est totalement brainless.
Puis même, c'est même sa narration est identique comics après comics.
Ouais.
Je veux dire, t'as toujours cette intro de blockbuster, puis hop, on revient un peu sur l'explication de l'histoire et ensuite le présent, quoi.
Bah, l'intro, c'est toujours tel le lieu de Gotham, très peu connu des Gothamites, qui a été fondé en telle année, et puis, enfin, tu vois, c'est toujours une intro à la con comme ça, où il te montre un lieu bien particulier. Et là, en l'occurrence, je crois que ça commence avec le parc. D'ailleurs, ça commence et ça termine avec le parc. On va pas expliquer pourquoi. Mais voilà, enfin. Bon. Et puis cette blague à la fin, quand même. Moi, j'ai pris ça comme vraiment du trollage, quoi. Genre, je troll. Parce que, tu vois, on te laisse avec un
Moi,
petit doute, et c'est vraiment ridicule, quand même, ce cliff.
oui, le cliffhanger est ridicule, mais non, moi j'ai même pas pris ça comme du troll. J'ai pris ça pour un mec qui a un manque d'inspiration, mais total, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il est en rythme de croisière, tu vois. C'est bon. Il dirige enfin, il écrit la série la plus connue au niveau du comics.
Bah, c'est ce qui s'est dit, hein.
Batman, tu vois, enfin, c'est la consécration. T'es auteur de la série principale Batman.
Oui, mais oui,
Ok.
et en plus,
Et
c'est ce
là,
qui.
maintenant, il se croise les doigts, enfin, il croise les doigts de pied, et il
Exactement.
fout plus rien.
Exactement,
Ouais, il
puisque.
cherche pas à se renouveler, il cherche
Mais.
pas à être
De
innovant.
toute
Non,
façon,
mais.
il devait partir, et puis finalement, il est resté en se disant, oh bah tiens, non, je vais continuer. Bah
Non,
oui,
mais
quand il a vu
c'est
sur son compte en
simple.
banque, ce que ça
Ce qu'il
rapportait.
a, ce qu'il avait expliqué à DC et ce qu'il avait expliqué dans pas mal d'interviews, c'est qu'après Endgame, c'était véritablement la fin de son run et qu'il avait plus rien à dire. Et DC lui a dit, ouais, mais on aimerait bien que tu restes quand même parce que putain, tu fais vendre, mec. Et il a
Oui,
dit,
mais il a rien à dire et ça se
ok,
voit.
mais alors à condition que je puisse faire vraiment tout et n'importe quoi. Ils ont accordé la preuve.
Bah c'est surtout
C'est tout.
tout est pas intéressant, pas intéressant du tout.
Le mec le dit clairement, j'avais envie de faire du grand n'importe quoi sur Batman, quoi. Mais il a réussi, hein.
Oui, mais alors dans ce cas, tu changes totalement Batman ou alors tu vas sur Batman 66. Enfin voilà, si tu veux vraiment faire un truc comique et que tu veux faire tout et n'importe
Non,
quoi,
mais moi
d'accord, pourquoi
ça
pas, mais
m'aurait
tu
pas
fais pas ça sur le titre principal,
ça
quoi.
m'aurait pas dérangé si qu'il fasse un titre Gordon ou un titre Bad Bunny ou un titre Bad
Mais
quelque chose.
quitte ouais, enfin moi, tu fais un titre Gordon, je veux un putain de polar, tu vois, je veux Gotham Central.
Non, mais bien sûr, mais je
Bah,
préférais
ou à la rigueur du
encore.
Summon Twitch, quoi, comme Bendis avait su l'écrire dans l'univers de Spawn.
Oui, non, mais je préférais encore qu'il ait fait son Bad Bunny ailleurs que sur Batman, c'est ça que je veux dire.
Bien
Que
sûr.
ça ait changé d'auteur et que Snyder et Capullo aient continué sur un autre titre.
Mais
Mais là,
il
l'hypocrisie,
pouvait.
c'est de, d'en plus, enfin, ça va vendre forcément puisque c'est le titre Batman, c'est le titre principal, comme tu l'as dit.
On avait eu cet essai-là fait par Morrison dans son run de Batman
Oui, c'est ce que j'allais dire.
avec les trois flics qui pétaient
Ouais.
les plombs et qui devenaient des vigilantes comme ça. C'est un peu le même genre. Et il y avait moyen de prendre cet aspect-là de gens qui veulent relever le niveau de Batman et à la police de les traquer, quoi.
Ah mais totalement, et
Mais
totalement, il aurait pu reprendre des pans de la continuité passée,
de toute façon, il sait faire que ça en plus.
et puis en plus, il aurait pu même donner une suite en quelque sorte à Batman Inc. Avec la police qui se dit, bah voilà, pendant des années Bruce Wayne a financé Batman, maintenant c'est à la police de financer sa propre armée de lutte anti-criminalité, quoi.
Non, mais après, on sait très bien que Snyder va pas reprendre des idées de Batman Inc. puisqu'il ne fait que de l'auto-citation.
Ouais. L'auto-masturbation, ça s'appelle aussi.
Non, mais c'est vraiment ça. Je suis désolé. Enfin, jamais tu vas voir Snyder qui va dire, ah tiens, je vais réutiliser un truc de quelqu'un d'autre. Parce que...
Bah si, il réutilise, mais en faisant mieux. Mais, tu non, as, mais, en ouais, tout cas, dans voilà, sa tête. Dans sa tête, en faisant
oui,
mieux.
Oui, c'est seulement dans sa tête. Mais par contre, juste pour revenir sur Morrison, voilà, Morrison était un auteur qui faisait tout et n'importe quoi, mais qui le faisait intelligemment. Quand on voit Morrison qui fait tous les Batman ridicules autour du monde dans Batman Inc, c'était parce qu'il retravaillait tout ce qui avait été fait dans les années 50. Il y avait une logique derrière et il y avait une recherche. Avec Snyder, j'ai juste l'impression que le mec se pose devant son clavier et puis il tape ce qui lui vient dans la tête, mais comme un gamin écrirait une histoire, quoi. Et en disant, putain, c'est cool ce que je viens de faire, quoi.
Un peu comme nous, hein.
Parce que, un peu comme nous.
Parce que,
mais
franchement,
sauf que nous, ce qu'on fait,
dire,
c'est bien.
Faut dire que, bon, déjà, ce sera pas publié, ce qu'on fait, donc les gens sont tranquilles. Et puis en plus nous on se dit une fois qu'on l'a tapé on se dit putain on a vraiment fait un truc pas mal
oui
mais bon mais on emmerde personne avec
mais c'est ça voilà on fait pas chier les gens avec ça quoi.
Voilà c'est ça
voilà et on le fait pas sur Batman quoi
non
et alors juste pour la petite anecdote, il y a quelques jours de ça, j'étais avec un client.
C'est vraiment c'est, voilà. ça a rejoint le
non,
sujet
non, c'est,
parce
c'est,
que
c'est,
franchement
non, c'est dans le sujet c'est juste pour dire. Je lui disais, Batman, c'est quand même le personnage qui doit être le plus facile à écrire, parce que c'est tellement facile de poser une ambiance dark et de faire une enquête de merde, quoi. C'est vraiment, bah, Batman se bat contre l'homme boue, et puis bam, il trouve dans une cachette, il y a des enfants morts. Il mène une enquête. Mmh. Voilà. T'as eu un peu de surnaturel, t'as eu une enquête, t'as eu du meurtre, voilà. C'est quand même, ça m'a pris 2 secondes à trouver ça. Snyder est pas capable de faire ça.
N'est plus capable parce qu'il a prouvé
oui,
qu'il était capable de le
oui,
faire avec
raison.
Black Mirror. Et c'est ça qui est d'autant plus dommageable quand on lit son run sur Batman, c'est que on avait tellement d'attentes après avoir lu Black Mirror, le retour de James Gordon Jr., cette montée en puissance. Et pour ça, moi j'ai aimé le premier arc, j'ai un peu moins aimé le deuxième, et puis après Zero Year m'a achevé quoi. Et depuis, j'ai décroché. Et depuis, je ne lis plus Batman. Il était hors de question que je lise ce 41, d'ailleurs.
Mais
ah,
voilà.
Tu l'as pas lu? Je croyais que tu l'avais lu.
Ah non. J'ai hésité en me disant, bon, est-ce que quand même je vais le lire parce que c'est quand même un comic très attendu?
Parce que...
Mais non, je savais très bien que j'allais le descendre.
Avant-hier, moi, j'étais en train de me dire, je vais pas le lire. Et puis, je sais pas si Kiwi t'avais prévu de le lire. Bah de toute façon, tu savais même pas si tu pouvais être là ce soir. Donc on a failli ne pas du tout. Enfin, aucun d'entre nous a failli ne pas le lire. Donc.
Et quelque part, on s'en serait peut-être mieux porté.
Surtout que le reste est aussi.
Mais moi, j'ai lu quelque chose de beaucoup plus intéressant dont je vais parler juste après. Donc je vais vous laisser donner vos notes, messieurs.
Bah très vite. Ouais.
Ça va être la grosse surprise.
Hein. Bah je crois que ça va être un gros pass.
Pareil.
Voilà, pour cet arc, tant que concrètement le Bat Bunny sera là et Batman ne revient pas, bah ça ne va pas fonctionner.
Eh bien moi, plutôt que lire Batman 41, j'ai été lire le Détective Comics 41, que j'ai trouvé beaucoup plus sympathique. C'est la première partie d'un nouvel arc qui s'appelle Réunion. C'est écrit par Francis Manapul et Brian Buccellato, avec des dessins de Fernando Blanco. Et on va suivre, évidemment, cette prémisse du Bat Bunny.
Black Bunny. Black Bunny. Vu comme on est raciste, en plus, ce serait quand même étonnant. Enfin, je comprends pas.
Le Bat Bunny, hein, qui est donc, bien sûr, toujours dirigé par Gordon. Et on va voir, cette fois-ci, l'histoire centrée sur Harvey. Sur Harvey Dent, rappelez-vous, dans le sneak peek, on voyait Harvey Dent qui aidait sa coéquipière
oui,
qui tirait sur quelqu'un.
Tirait
sur quelqu'un, et en fait, elle était suspendue, et on va repartir de là, en fait. La suspension a eu lieu.
Bah, c'est surtout qu'il demandait à Gordon de l'aider à tuer sa collègue.
Oui. Et on va comprendre pourquoi avec ça. Elle a été suspendue parce que, elle avait tiré sur quelqu'un. On ne sait pas trop pourquoi, on va avoir de bons indices à la fin de l'épisode, donc. Ne comptez pas sur moi pour vous les révéler, je vous encourage fortement à le lire.
Mais tu vas nous les révéler, et en vitesse,
et Harvey Dent est en fait contacté pour devenir le chef de cette nouvelle task force qui va s'occuper d'être avec le fameux Bat Bunny pour un petit peu ranger la merde qu'il a foutue et l'aider dans son enquête. Ouais. Sauf que Harvey Dent n'a aucune envie de faire partie de cette task force, il ne veut pas ni la l'idée, ni en faire partie du tout. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le refoute dans la rue à faire son boulot de flic. Parce que pour lui, la seule chose qui compte, c'est
soin, je crois que t'allais dire.
Retrouver Batman. Parce que pour lui, Batman n'est pas mort. Et d'ailleurs, ce sera une constante qu'on a dans un autre épisode. Pour lui, le vrai Batman n'est pas mort. Et ce Bad Bunny, il en a rien à foutre. Et en plus, c'est une idée de merde parce que les vigilantes, on les aimait pas quand c'était Batman, mais là qu'il est sanctionné par la police et qu'il fait exactement la même chose, on l'aime. C'est débile.
Mmh. Ah, ben c'est le syndrome supérieur Spider-Man. C'est la même chose, sauf que il est apprécié de la foule, alors que Batman, il était conspué. Bah là, c'est pareil, quoi. C'est le supérieur Batman, en fait, ce Gordon.
Non, mais puis pareil, je trouve que l'idée même est conne. Tu peux pas dire, bon, mais les flics acceptent que tel mec, mais juste lui, puisse tabasser qui il veut, comme il veut, et fait partie de la police.
Ben oui.
C'est très con.
Mais c'est très con.
Parce que Batman, ok, il est pas flic, donc du coup, ils ont pas de contrôle sur lui, parce qu'ils arrivent pas à le choper.
Bah, c'est là, logique. Si, techniquement, il est sanctionné par la police, ce nouveau-là, en tout cas.
Oui, mais justement, enfin, je veux dire, le Batman original, il fait pas partie de la police, ils arrivent pas à le choper, donc la police est contre lui, tout ça, c'est
d'autant logique. Plus qu'il démonte la corruption au sein de la police, alors merde.
Voilà. Mais là, un Batflic, qui ressemble à un lapin, enfin, tout est tellement con avec cette idée, je suis désolé. Ça
et en fait, on va naviguer dans ce Détective Comics 41 entre le présent où on a donc Gordon dans son costume de Batman à la poursuite d'un criminel et le passé, comment Harvey en est venu à joindre cette task force, puisqu'on le sait, il en fait partie. Pourquoi a-t-il accepté? C'est le retour de René Montoya en tant que flic, et c'est plutôt cool puisque c'est quand même elle qui va réussir à le convaincre avec des méthodes que je vous laisse découvrir. D'ailleurs, les méthodes, pareil, de Bullock pour essayer de lever la suspension de son partenaire, enfin de sa partenaire dans le cas présent, sont très très bonnes. Voilà, Harvey est excellent en personnage principal, un peu bougon. Bah, on parlait de Sam and Twitch tout à l'heure, j'ai vraiment cette impression-là, quoi.
De toute façon,
le personnage était calqué dessus.
Sam et Twitch, voilà, ils ont été clairement, c'est du copier-coller de McFarlane sur Bullock et Gordon, quoi.
Le personnage était calqué dessus, mais Harvey n'a jamais eu le spotlight comme ça. Eh bien, là, il l'a dans ce Détective Comics, et franchement, c'est pas pour me déplaire. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Bien écrit, en plus, comme je dis, on comprend bien le fait que qui demandait à ce nouveau Batman de l'aider à tuer sa partenaire. Parce que voilà, la fin de cet épisode donne la réponse à pourquoi il veut la descendre.
Il n'était pas dans Gotham Central, Bullock, par moment, quand même.
Par moment, mais il n'a jamais été le personnage principal.
Il n'y avait pas vraiment de personnage principal, quoi. C'était vraiment.
René Montoya était peut-être celle qui était le plus mise en avant avec Crispus Allen.
Encore ça dépend des arbres, j'ai l'impression.
Avec Crispus Allen. Ouais. En tout cas, moi, c'est une très bonne surprise que ce Détective Comics. Pour moi, c'est un bon petit bail. C'est un bon petit bail, voilà. J'ai vraiment aimé, j'ai passé un très bon moment, donc pourquoi se priver, quoi. Une autre sortie attendue de la semaine, c'était Earth 2 Society, Benny.
Oui, par Daniel H. Wilson au scénario et Jorge Jiménez au dessin. Alors, c'est ce nouveau monde de Earth 2, hein. Ils sont sur une nouvelle planète. Donc Earth 2 Society, justement, puisque ils reconstruisent totalement cet univers que j'avais un petit peu laissé tomber depuis la série Futures.
Futures End, World's End.
World's End, puisque c'est surtout dans World's End qu'on avait donc ces personnages. Et vu que j'ai pas lu Convergence non plus, enfin très peu, j'ai essayé de recoller les morceaux en réalité en m'attaquant à cet épisode. Bon, c'est assez compréhensible. Donc au fait, Batman poursuit l'homme le plus recherché de ce monde qui s'appelle
Sloane.
Terry Sloane.
Qui est un personnage qui était déjà connu dans Earth 2, hein.
Oui, d'accord, mais je veux juste oublier son nom. Terry Sloane. Et au fait, après, on a un flashback et on nous explique pourquoi, au fait, il est si recherché. Et on se rend compte que, ils sont arrivés sur cette nouvelle planète d'une manière assez catastrophique. C'est le cas de le dire, puisque la moitié des rescapés se sont littéralement crashés à cause de lui. Et on assiste un petit peu à tout ça. J'ai trouvé que c'était un comics qui manquait vraiment d'humour. Je sais pas, c'est pas que ça m'a déprimé.
Ah bah c'est sérieux, hein, c'est très sérieux.
Mais
ah
oui, ouais. trop. Je sais pas, ça vraiment.
Ça m'a pas gêné, moi.
J'aime bien.
La situation est tragique, quoi, parce que.
Bah ouais,
clairement...
justement, mais un peu trop. Là, on est vraiment dans le pathos.
On n'a pas encore de lien complet avec ce qu'on avait vu dans le sneak peek le mois dernier.
Ouais, mais j'ai préféré le sneak peek, m'a vraiment bien plus captivé que cet épisode, qui, bon, voilà, j'ai j'ai eu du mal vraiment à rentrer dedans, j'ai pas trouvé ça génial. Bon, tu vois, limite, je me dis, bah, est-ce que j'ai envie vraiment d'aller voir la suite? Peut-être, s'il y a rien d'autre de plus intéressant.
Moi, ça m'a plu en tout cas. Franchement, ça m'a beaucoup plu. Enfin, cette nouvelle terre qui, déjà, Earth 2 était une terre vraiment scarifiée puisque les ravages de Darkseid, la mort de la Trinité, on a des nouveaux héros qui essayent d'apparaître, etc., et qui essayent de faire leur trou dans un monde assez corrompu finalement. Et alors là, la prémisse du monde est encore pire, quoi. Ils ont réussi à s'échapper de la Terre. Il restait 2 millions de personnes. Et quand ils reviennent sur Terre, parce qu'ils ont réussi à, bon, grâce à Convergence, avoir une nouvelle Terre, etc., ils s'écrasent. Il y en a un bon paquet qui crève. Ils remontent les cités comme ils peuvent. C'est encore plus noir, encore plus sombre. Moi, je sais pas. Moi, j'ai envie de découvrir ce nouveau monde, quoi.
Ouais, bah, moi,
Green Lantern a bien changé aussi.
Je regrette toujours Tom Taylor sur ce titre qui était vraiment excellent. Et voilà.
J'ai envie de laisser sa chance, moi, en tout cas, au produit. Aller voir au moins le suivant, histoire de comprendre un petit peu, puisque bah, voilà, le fait que Terry Sloane soit pourchassé et soit surtout apeuré, c'est ce qui est intéressant, puisque le personnage est quand même censé être le personnage le plus puissant de cette nouvelle Terre. Alors, qui arrive à l'apeurer comme ça?
Ouais. Je sais pas, moi j'étais un petit peu...
J'ai vu des choses intéressantes. Ce que j'espère, c'est qu'on restera pas trop longtemps dans le flashback, parce que la situation avance dans le présent, oui. Enfin, il s'est passé un an depuis la fin de Convergence. Mais qu'on nous fasse pas pendant 15, 20, 30 numéros des ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on atteigne cette année, quoi. Qu'on voit un peu la création du monde pendant le premier arc, le deuxième, d'accord, voir qu'on fasse un arc complet qui se passe dans le passé, et après qu'on n'en parle plus, parce que ces épisodes, enfin ces séries qui passent leur temps à revenir dans le passé, genre Lost, c'est juste chiant. C'est chiant, quoi. Il y a un moment, les flashbacks, faut que ça s'arrête.
Alors là, il y a vraiment le côté Lost, vu que c'est un gros crash, donc bon. Mais ouais.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je faisais cette comparaison là.
Ouais. Hein. Mais moi ça m'a pas voilà, pas sans plus.
Kiwi
oui,
moi
il y a un truc qui m'a chagriné en fait au début de l'épisode, c'est que l'action se passe à New Gotham et en fait juste je me disais mais enfin tu reconstruis entièrement le monde, la première ville serait plutôt Metropolis et là ils te disent non, on a construit Gotham
oui,
en premier.
Oui, c'est désespéré.
Et je me dis, mais c'est que, en fait, t'es suicidaire.
Non, ils ont pas construit Gotham en premier, en fait. C'est là où s'est crashé le vaisseau qui était le vaisseau dirigeant de la flotte. Le Omnitech.
Oui, ils te disent, c'est la première ville qu'ils ont refaite, c'était Gotham. C'est écrit.
Oui, mais parce que c'était avec ce plus gros vaisseau, là, ce Overwatch numéro 1.
D'accord, mais attends, mais quand la Terre, elle a été la Terre, elle est réapparue, là, à la fin de Convergence.
Il n'y avait rien sur la planète, c'est avec les vaisseaux qui se crashent.
Oui, non, mais voilà, donc c'est eux qui choisissent comment ils vont appeler les nouvelles villes.
Oui.
Oui, c'est ce qu'ils essaient de dire.
Au lieu de prendre Metropolis ou une ville qui s'appellerait Hop City, tu vois, non, ils choisissent Gotham, l'endroit où tout le monde va crever de manière horrible.
Ben, je pense que c'est sûrement un des plans de Terry Sloane, mais on en saura plus dans les prochains mois sur comment les villes se sont reconstruites, pourquoi, quelle ville il y a et pourquoi, en fait.
Mais il y a pas, moi, d'après ce que j'ai compris, il y a pas beaucoup de villes et oui, effectivement,
c'est, leur, 12.
C'est leur choix d'avoir construit Gotham comme ça et avec les restes du vaisseau et
Ouais, voilà. Moi, ça m'a pas plus emballé que ça.
Moi non plus, ouais. Bon, bah, on passe aux notes.
Bah oui, les notes, bien sûr.
Petite check-it pour moi.
Petite check-it aussi.
Check it plus pour moi, à la limite d'un bail. Vraiment. Si vous étiez pas du tout intéressé par l'univers Earth 2, je pense que c'est pas la peine de vous y mettre maintenant, vous comprendrez rien. Mais presque un bail. Pas un bail complet, mais presque un bail. On continue avec Catwoman numéro 41. Nouvelle série. Nouvelle direction un peu pour la série. C'est écrit par Geneviève Valentine. Et avec des dessins de David Messina. Alors c'est assez compliqué, assez touffu pour entrer dedans, honnêtement. On est toujours dans cette situation où Catwoman est chef d'une des crime families de Gotham et elle est en guerre plus ou moins ouverte contre les autres familles du crime, et notamment celle de Black Mask, la famille Sionis. Parce que c'est un méchant, voilà. C'est tout. Et c'est alors quasiment que du dialogue. Quasiment aucune scène d'action, c'est des plans retors sur comment arriver à mettre une famille en doute tout en essayant de garder la tête haute et ne pas montrer que c'est nous qui l'avons fait. C'est... Je trouve ça intéressant, mais il me manque des clés, comme je le disais dans le sneak peek la dernière fois. Je n'ai pas eu le temps d'aller rattraper les Catwoman précédents. Et du coup, je sens qu'il me manque quelques clés. Donc c'est véritablement pas une série à prendre en route. Enfin, en tout cas, si vous connaissez pas l'univers de Catwoman comme ça, ça va être très compliqué. Ça fait appel à beaucoup de choses et beaucoup de choses de l'univers Batman, les différentes familles mafieuses. Et on est toujours dans cette situation où il y a le Batman robot, hein, puisque on l'apprend, Batman est mort. Et ben on a ce nouveau Batman robot et Catwoman qui elle aussi veut partir à la recherche de Batman parce que de toute façon elle sent qu'il est pas mort. Comme je dis, ça va être une situation récurrente. Hein. La scène où elle s'effondre est vraiment jolie, vraiment bien faite, pleine d'émotions. Enfin voilà, il y a de très bons passages quoi. Tu l'as lu aussi assez rapidement, Kiwi?
Alors, en fait, c'est que j'ai essayé de le lire alors que j'étais hier soir et que j'étais bien fatigué. Et parce que je voyais que il y avait l'air d'avoir une super ambiance, qui vraiment justement un côté film noir, film de gangster, enfin plutôt comme Le Parrain ou des choses comme ça, donc un truc sympa, tu vois, à Gotham. Et par contre, c'est ce que tu disais. Moi, j'ai pas lu d'épisode de Catwoman avant cet épisode-là. Enfin, de cette série-là. Et en fait, j'ai quasiment rien compris, quoi. Je comprenais bien que, ouais, il y avait des histoires entre les familles mafieuses et tout ça. Mais non, là, avec la fatigue, au final, voilà. À part le moment où Catwoman, effectivement, est effondrée en se disant... Enfin, le moment de doute sur est-ce que Batman est vivant ou pas. Mais toute la situation, il n'y a aucune explication, il y a plein de personnages que je connaissais pas. Voilà, c'était très confus pour moi. Mais ça a l'air très bien. Mais voilà, ça demandera une deuxième lecture en ayant complété avec des épisodes avant.
Ouais, moi c'est ce que je compte faire aussi. Hein. Honnêtement, j'étais un peu largué, donc je vais mettre qu'un check it. C'est pas mauvais, mais j'ai pas tout compris et vraiment je ne vous encourage pas à vous lancer dans la lecture si vous voulez découvrir le personnage de Catwoman. Prenez le run bien avant.
Mm. Oui, voilà, c'est que c'est une série qui a l'air intéressante, mais on peut pas commencer par là, quoi.
C'est clair. Mm. Continuons avec toi justement Kiwi, tu vas nous parler de la nouvelle série Starfire.
Ah bah oui, Starfire, par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et au dessin Emanuela Lupacino. Alors, on va parler des dessins d'abord, comme ça on dira quelques trucs positifs. C'est très joli, c'est vraiment super joli. Ce qui m'a fait un petit peu rire, c'est il y a eu quelques critiques il y a quelques mois sur internet sur Milo Manara qui avait fait une Spider-Woman où on lui avait fait tous les reproches, notamment de la dessiner comme si elle était nue. Il avait dit que c'était une des règles du dessin de super-héros, c'est de les dessiner comme si c'était nu. Superman, voilà, il est quasiment tout nu. Et là, c'est ça. Starfire, t'as l'impression que c'est du body painting. Bon, du coup, c'est sexy, c'est très rond, c'est très joli. Et le scénario, qu'est-ce qu'il est con. Mais il est con. Alors, Starfire est adulte et elle agit comme une gamine de 5 ans. Alors, on comprend vite fait qu'en gros, c'est exactement la Starfire qu'il y avait dans un dessin animé Tintin Tans qui était pour les enfants. À savoir que si on lui dit par exemple que qu'on est triste parce que on pense à sa grand-mère qui est morte tous les jours, et elle se fout à chialer. Sauf que ça va vite fait comme ça. Là en fait elle a juste l'air totalement débile. Elle est je saurais pas dire tellement, enfin les séquences s'enchaînent où elle prend tout au pied de la lettre. Au point où on se dit, mais alors il suffit de lui dire, écoute, si on couche pas ensemble, la Terre va exploser, et elle va coucher avec toi, quoi. Donc, c'est, tu te dis, comment tu peux tenir une série avec un personnage pareil. Et en fait, j'ai craqué, c'est-à-dire que j'ai dû lire, je pense, 5 ou 6 pages, et j'ai arrêté. C'est-à-dire que c'était trop con. Voilà, donc, j'en dirai pas plus, pour moi, c'est juste un gros pass, ou alors sinon, allez feuilleter les dessins, ils sont très jolis.
Ah oui.
Ah ouais. Ah oui, non, oui. Non, c'était catastrophique pour moi. Voilà.
D'accord. Donc c'est vraiment la blonde, mais très très blonde, quoi, en fait. C'est,
Mais non, mais le pire, c'est que tu sens qu'il n'y a pas de mauvaises intentions de la part des scénaristes. C'est, ils l'aiment bien, ils veulent faire un truc que les gens attendaient. Mais, là, au bout d'un moment, enfin, on l'a vu dans Redwood and the Atros, où elle se montrait quand même un peu guerrière et réfléchissait. Là, elle est conne, quoi. Elle est pas. C'est même pas qu'elle a un comportement extraterrestre différent des humains. C'est que t'as l'impression qu'elle réfléchit même pas. Enfin, je trouve ça vraiment dommage pour le personnage où t'es. Je me dis, c'est. Ça aurait été une autre série où elle aurait été un personnage secondaire. Je pense que tout le monde aurait hurlé contre le scénariste en disant non, mais sans déconner, le mec est misogyne, quoi. Voilà, là, c'est juste qu'on la met en personnage principal en disant « Oh, regardez comme elle est choupie parce que elle comprend pas tout. » Bah non, elle est pas choupie, elle est conne, quoi.
Ouais.
Voilà.
Non, mais ouais, mais ils ont en plus ils ont déjà un personnage un peu, tu sais, pas un peu crétin, mais enfin limite avec Harley Quinn qui déconne quand même pas mal. C'est pas qu'elle est stupide, mais bon, elle fait marrer parce que quelquefois elle a des réactions un peu space. Bon. Mais avait-on besoin de Starfire en plus, quoi, finalement?
Ben voilà, pour moi c'est vraiment un essai raté, quoi. C'est ça passe pas. Il y avait possibilité de faire quelque chose. Et encore, perso, j'y crois pas trop. Un titre Starfire où elle est toute seule dans la série.
Oh, Lee Squirrel Girl, tu croiras beaucoup de choses.
Oui, non, mais
Squirrel Girl Galactus, quoi.
J'ai des limites à mon masochisme, si tu veux. Là, je suis allé sur Starfire parce que les dessins étaient vraiment magnifiques. Mais Squirrel Girl, les dessins sont dégueulasses. Je peux pas non plus une histoire de merde avec des dessins dégueulasses au bout d'un moment. Je peux pas cautionner, tu vois.
Ok. Mais bon, bah voilà. Moi, ça le mérite d'être clair. On passe à la suite.
Et oui, la suite, c'est une autre série à tendance comics, All Star Section 8, Bunny.
Ouais, alors c'est vraiment le comics what the fuck de la semaine.
Mini en 6, hein, déjà, précisons-le tout de suite.
Mini en 6, on retrouve... Alors bon, c'est de Garcenis avec des dessins...
John McCrae.
De John McCrae. Mais je crois que c'est l'équipe de Dix, au fait, hein, tout simplement.
Oui, et de Hitman aussi.
Et de Hitman.
D'où les personnages sont venus.
Alors des personnages totalement déjantés avec Jean de Bâton, le Defenestrator qui défenestre donc les gens. Enfin, plutôt qui casse des fenêtres sur leur tête. Enfin voilà, Friendly Fire, donc on voit le type de personnage que ça peut être. On s'attend à un truc bien trash quand même et bien déconnant. Et puis ma foi, je suis pas rentré dedans. Autant le sneak peek m'avait amusé, autant là, voilà, les gags sont tellement gras et sont tellement, je sais pas ce qu'il a voulu raconter en fait. Il y a pas vraiment d'histoire. On retrouve certains personnages de cette section 8. Ils essayent de reformer l'équipe et puis après on se barre sur une scène où Batman vient de garer sa Batmobile et le personnage principal, Sixpack, essaye de recruter Batman. Et alors il y a dans le dessin des, comment dire, ils ont intégré d'anciens dessins iconiques de Batman, comme par exemple ce moment où il se fait péter le dos par Bane, sauf que Bane n'apparaît absolument pas sur le dessin, ils ont juste découpé et collé le Batman de cette image dans la planche, et avec des gags vraiment pas top, quoi. C'est bizarre, franchement. Je suis pas rentré dedans. J'étais vachement emballé, je pensais vraiment me marrer à lire ça, et j'ai pas compris cet humour totalement what the fuck. On a l'impression que ça a vraiment été écrit avec un petit rail de coke. Ça le fait pas, voilà.
Bon, bah dis donc, c'est pas une très bonne semaine pour DC quand même, hein.
Un petit check-it peut-être, parce que peut-être que, comme je l'ai lu avant cette émission, voilà, je l'ai un petit peu lu en speed, peut-être que j'étais pas dans le bon état d'esprit, mais bon.
J'avais pas été séduit personnellement par le sneak peek, j'avais pas trouvé ça très drôle et ça m'avait pas plu, donc...
Moi j'avais été séduit par ces personnages, j'avais envie d'en voir plus, mais là, il y en a aucun qui est développé. C'est juste Sixpack, et Sixpack est complètement dans ses délires... Voilà, c'est vraiment pas génial. Je m'attendais à mieux. Donc bon.
Alors, est-ce que la dernière review d'essai relèvera le niveau de cette semaine assez fade quand même, enfin en tout cas assez moyenne? Il s'agit de Constantine Hellblazer numéro 1, Kiwi.
Oui, avec Ming Doyle et James Tignon Tynion, pardon, Tynion. James Tynion.
James Tynion.
4, 4, voilà, on va faire un petit mélange franglais au scénario et Riley Rosmo au dessin. Alors déjà, je suis très content de voir Riley Rosmo sur...
Tynion. Tu l'aimes bien, James Tynion.
Je l'ai juste feuilleté et c'est vrai que c'est magnifique.
Voilà, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Là, les planches sont vraiment très belles. Pour vous donner une
Mais
idée,
toi aussi,
si
tu
vous
es
avez
très
pas
belle.
Vu les planches... Merci, j'aime quand tu me fais des compliments. Voilà, c'est un dessinateur qui fait un dessin assez moderne, un peu dur, avec de la
oh,
trame pour,
toi aussi,
pour
tu
faire
es un
les
peu
ombres.
Dur.
Mais je sais être très doux. Les voilà, donc avec de la trame très bien dosée, qui donne vraiment une super ambiance au, à ces planches. Chose un peu étrange, son John Constantine fait très jeune. Je disais à Benny en off, il me fait un peu penser à...
Christian Constant. Non, je déconne. Non, c'est un prix.
Mais non, putain.
C'est
René Patrick...
Gagliard.
Oui, à Neil Patrick Harris. Voilà, le, celui qui
ah,
jouait...
Ah oui, ouais. Oui, 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 c'est vrai. Mais
tu vois, il y,
dis...
y a le petit côté un peu dragueur, un peu juvénile. Il y a le... Voilà. Y a...
Est-ce que c'est le côté sexualité qui t'a fait penser à ça aussi ou...
Non, pas du tout. C'est vraiment...
Bon, ça, c'était gratuit, hein, j'avoue.
Oui, non, mais oui.
Ouais, par contre,
mais
on va te demander de l'argent, par contre.
Non, non, mais il y a franchement, oui, il y a des moments où on voit la tête et il s'est quand même vachement inspiré.
Voilà, c'est, mais pour moi, la première case, enfin, la toute première case, j'ai eu l'impression de voir Neil Patrick Harris.
Ah, j'avoue que ce serait tellement contre-productif de l'avoir en personnage principal dans une prochaine adaptation en série ou en film.
Non, mais très, très franchement.
Mais il est tellement bon acteur que.
Je suis persuadé qu'il ferait une super prestation.
Non, mais
le mec, à mon avis, il peut te faire un truc très dramatique, hein.
Oui, non, mais en tout cas, Hellblazer, d'habitude, qui est plutôt malfagoté, un peu cradingue,
ouais, là,
mal
il est
rasé,
très classe.
On a l'impression qu'il pue la clope et voilà, qu'il s'en fout.
Ah, mais voilà, là on n'a pas
là,
un
gentleman. Là, il est très classe, là c'est gentleman.
Ouais, là il sent pas la bière.
Là,
c'est
il
classe
sent pas la bière,
tantine,
là.
En fait.
Ouais.
Là il sent voilà. Bon, là t'imagines le mec, le parfum et tout, enfin, qui est sûr de son coup, et d'ailleurs, il branche quand même un mec.
Voilà. C'est le moment un peu qu'on a tous retenu de l'épisode, c'est il va draguer le barman, en fait.
Oui, il va draguer un barman, et puis c'est assez bizarre parce que je me souviens pas, alors peut-être que je suis complètement passé à côté, mais je me souviens pas que John Constantine était bi ou même qu'il couchait avec un peu tout et n'importe qui, quoi.
Alors, moi j'ai pas lu les épisodes en question, mais...
Parce que toi tu me disais qu'il couchait même avec des démons avant l'émission.
Oui, oui, mais voilà, c'est ma libraire qui m'avait parlé des épisodes à l'époque d'Ennis, où apparemment, oui, il couche femme, homme, démon, tout peut y passer, quoi.
Même ta libraire, visiblement.
Oui, alors tu ne parles pas d'elle comme ça, parce que c'est une amie, voilà.
Ouais, c'est quand même la classe de coucher avec John Constantine. C'est pas donné à tout le monde, t'aurais bien aimé, hein.
Assez proche du personnage finalement principal dans Torchwood, Capitaine Jack Harkness.
Oui, oui, personnage de Doctor Who aussi, d'ailleurs. Mais ouais, ça, moi effectivement, c'était un John Constantine qui me faisait énormément penser à Jack Harkness. C'est assez étrange du coup. Puisque justement, Jack Harkness, c'est le côté un peu classe et beau parleur. Et bah là, comme on disait, on n'a pas le côté pue la bière de John Constantine.
Pue la bière.
Comme quoi, je ne dis pas que de la merde, hein, quand même.
Ben non, y a de temps en temps, tu dis des trucs intéressants.
De temps en temps, ça arrive une fulgurance, donc je vais compenser avec beaucoup de saloperies d'ici
c'est
là.
C'est rare, fin. C'est rare quand même, on doit dire.
Mais pour revenir à l'épisode, en fait, voilà, le passage où John drague le barman est en fait le passage sans doute le plus intéressant du comics, puisqu'après, bah, justement, une femme démon se ramène. Et là, John se retrouve embrigadé dans une histoire autour de démons où il va descendre en enfer et c'est franchement lourd à lire.
Ah ouais.
Pas agréable, quoi, voilà. Bon, le petit cliffhanger, finalement, à la fin, bon, oui, moyen, c'est pas ça qui me donne forcément envie de lire la série, quoi. Voilà, donc moi je vais continuer quand même au cas où. Plus sans doute parce que les dessins j'accroche vraiment, mais si le scénario reste aussi lourd en fait dans les phases importantes de l'histoire,
tu fais une grève de la faim.
Non, je vais vite décrocher. Voilà.
Ah c'est tout.
Donc.
D'accord.
Oui, non, mais c'est que bah, au bout d'un moment, si quand
non,
la
non,
partie
mais je plaisante,
la plus
c'était du second degré total.
Non, je suis désolé, je l'ai pas compris.
Bah, non, mais là, en fait, t'as pas compris, il a essayé de pourrir ta review depuis le début.
Oui, mais tu sais, il fait toujours un peu le con, il est toujours un peu chiant, et en plus, il est moche et une petite bite, donc au bout d'un moment.
Oh, ça fait beaucoup pour un seul homme.
T'as vu
Es-tu
ça?
sûr de ça?
Eh bien, j'encourage les auditeurs à vérifier au Lyon Comics Gone où tu seras bah, le jour où
Où
cette
tu feras
émission
une
sort.
exposition de
Je
bites.
sais, non, ouais, ils pourront vérifier si je suis moche. Après, pour l'histoire de la petite bite, je ne sais pas quand même, parce que je suis peut-être
Bah.
moche, mais pas tout le temps à poil quand même, hein.
Allez-y, tâtez-le, hein.
Oh bah là, ça doit devenir tout gros et tout dur, hein, attention.
Non mais bon, oui, on va peut-être, va falloir qu'on avance là parce que là, ça s'embourbe.
Bon, pour moi, ce sera un petit check-it.
Ben,
Un petit,
pour...
allez, un check-it moyen.
Moi, ce sera un check-it moins, franchement très très déçu. Encore une fois, j'avais adoré le sneak peek et là, j'ai trouvé ça lourd et j'ai pas réussi à le terminer. Donc c'est quand même pas terrible, quoi.
Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est pour Riley Rossmo, arrivera-t-il à tenir les délais avec cette série Raspoutine dont j'attends le retour avec impatience? Ça m'embêterait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça hein, qu'on a eu un gap entre les deux arcs, mais j'espère vraiment qu'il pourra tenir sur la série Raspoutine qui était très bonne. J'ai pas envie de le voir partir d'Hellblazer parce que son style correspond bien à cette ambiance, mais en même temps, voilà, j'avais adoré Raspoutine et vu ce qu'on nous annonce pour le deuxième arc. J'ai envie de le voir arriver, je suis vraiment emmerdé. Bref, passons au TP de DC. Pour cette semaine, sort, si vous avez beaucoup d'argent, un Absolute Transmétropolitane. Premier volume, les 21 premiers épisodes de cette série absolument géniale de Warren Ellis et d'Aric Robertson, c'est au prix de 125$. C'est de l'Absolute Hardcover, c'est du très très gros. Une série qu'il faut absolument que vous ayez dans votre bibliothèque. N'est-ce pas, Benny?
Et justement, je n'ai pas entendu quelle série. J'ai juste entendu Absolute, très gros volume. Mais alors,
Transmétropolitane.
ah, Transmétropolitane. Non, non. Et d'ailleurs, Kiwi, tu vas me back-upper là-dessus. Attention.
Non. Voilà. Maintenant, je sais que c'est plein de gens adorent. Moi, je suis parti de ceux qui sont passés à côté. Je l'ai lu. Je me suis dit non.
Voilà. Ah bah, tu vois, nous allons faire l'amour tout nu après cette émission.
Oui, mais pas que.
Mais pas que.
Nous avons aussi le premier TPB de Batgirl, qui est appelé volume 1, alors que c'est juste le renouveau de la série par Cameron Stewart et Babb Starr. Donc vraiment une grosse grosse mise en avant. Ou alors
Bah,
c'est
c'est
vraiment ma
surtout que...
sollicitation. Ou alors c'est ma sollicitation qui déconne. Hein,
Non, 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 mais je pense que, enfin, limite, il y avait besoin parce que c'est tellement différent de la Batgirl précédente qu'à la rigueur, c'est pas plus mal.
Ce sont donc les épisodes 35 à 40 qui sortent au prix de 15$. Nous avons Batman Cataclysm, nouvelle édition en TP.
Putain, encore, décidément.
Et ouais, encore, avec les Batman 553 à 54, Detective Comics 719
Non,
à
ils les a eu en France,
721.
hein, à la rigueur, donc est-il besoin
Bah,
de...
pour ceux qui veulent la version US, hein,
Ouais.
le Shadow of the Bat 73-74, Nightwing 19-20, Azrael 40, Catwoman 56-57, Robin 52-53, Batman Chronicles 12. Blackgate, Isle of Men numéro 1, Untrace Spoiler, Blunt Trauma numéro 1, et Batman Arkham Asylum, Tale of Madness numéro 1, voilà la complète, c'est au prix de 30$. C'est pas excessif. Pour un seul
Ouais,
volume.
en tout cas c'était pas la partie la plus intéressante. Éventuellement on peut même la zapper et attaquer directement No Man's Land.
Ouais, mais c'est le démarrage, quoi.
Ouais, mais enfin c'est un démarrage qui sert à rien.
Si vous êtes complétiste. Voilà. Chez Vertigo sort Bodies en TP, cette série de Cy Spencer qui est un enchevêtrement de quatre histoires qui se passent à différentes périodes avec une histoire de tueur, une histoire en 1890, une autre en 1940, une en 2014 et une en 2050. Rappelez-vous, en 2050, c'était très difficile à comprendre puisque il y avait beaucoup de mots qui n'étaient plus les mêmes, les choses avaient changé, c'était un monde post-apocalyptique où le langage n'était plus le même. Voilà, tout ça est collecté dans ce TP au prix de 17$. C'était très intéressant en tout
On
cas.
s'en rappelle, mais on l'a pas lu. Mais on s'en
Ah,
rappelle.
vous l'avez pas lu? Ah,
Non.
putain,
Mais par contre, t'as dit un truc très
c'était.
intéressant. T'as dit bodies, un enchevêtrement de corps, donc.
Ben là, c'est le cas, oui, puisque c'est un serial killer qui a les mêmes façons de tuer à travers différentes
Oui,
périodes
je me rappelle,
du
je me
temps.
rappelle, je me rappelle que t'en avais parlé, effectivement.
Et enfin, toujours chez Vertigo, le TP de The Wake, pour ceux qui le veulent en VO, un TP qui reprend toute la série de Sean Murphy
Mais
et
Murphy.
Scott Snyder, au prix de 18$.
Ouais, une série dont la première partie m'avait que j'avais beaucoup appréciée et puis après la seconde partie beaucoup moins.
Mais c'est deux parties totalement différentes. La première est horreur alors que la deuxième est SF.
Oui, bah la partie SF, très franchement, m'avait saoulé.
Mais tu n'aimes pas la
Enfin, moi
SF.
j'ai bien aimé les deux et Sean Murphy, très bien. Voilà.
Ouais, mais non. Et puis c'est tout.
D'accord, écoute.
Nous allons passer à notre partie 1D maintenant, démarre avec toi, Kiwi, tu nous parles de la fin de Chrononauts.
Oui, alors, Chrononauts... Hein ?
Non, rien, vas-y.
D'accord. Donc, Chrononauts, une histoire où deux scientifiques... Alors, pas débiles, mais voilà, les bons potes qui font les cons tout le temps ensemble, se retrouvent à pouvoir voyager dans le temps, et donc... À la base, tout ça devait être filmé, mais bon, les choses
on
sont
a,
passées.
On a parlé des trois premiers, donc tu peux...
Voilà, oui, non, mais c'était pour faire un petit rappel, vite fait, pour justement dire où en est la situation. Au début du quatrième, avec le méchant prend, enfin, a pris possession d'une des machines temporelles. Enfin, des costumes temporels. Alors, j'ai pas dit les auteurs, c'était Mark Millar et Sean Murphy. Bah, Sean Murphy, comme pour The Wake, c'est magnifique. Et là, sur ce quatrième épisode... Alors déjà c'est le plus faible de la série qui est en 4, donc en gros ça se finit très moyennement. Et ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est que Millar se prend les pieds dans le tapis avec le fonctionnement des voyages temporels qu'il a établis en seulement 4 épisodes. C'est-à-dire que en gros ça fait 3 épisodes que les mecs arrêtent pas de faire tout et n'importe quoi dans le passé, ça change rien dans le présent. Et là, il y a un seul truc qui vont changer, et ça change tout. Voilà, donc, bon, c'est très décevant, en fait, comme truc, en se disant, mais enfin, le mec, il a fait son pitch, il s'est amusé. Bah, là, pareil, j'avais l'impression de voir un petit peu un gamin qui disait, ah bah tiens, je vais jouer à deux personnages qui peuvent voyager dans le temps. Et qui, voilà, ils font tous les trucs un peu comme des gamins, c'est sympa, c'est rigolo. Mais concrètement, en fait, ça ne se tient pas au final. Voilà. Après un peu d'humour toujours sympa, mais pour ce qui est de la trame du coup bon bah
on disait
voilà, ça tient pas la route quoi.
Hors antenne, on était d'accord là-dessus quand on parlait de cette série, on a l'impression que comme d'hab maintenant Millar s'embarrasse pas et qu'il délivre un pitch et pas une histoire complète. Ça aurait pu être en 10 parties, ça n'aurait pas dérangé, il y a tellement de choses à dire sur cet univers, et enfin c'est tellement riche.
Ah, il aurait pu faire un truc
mais même un
très
ongoing,
bon truc,
même
une bonne un ongoing, mais il aurait fallu mieux le maîtriser. Là pour le coup, enfin comme je dis, le quatrième épisode, enfin
non mais tout est effleuré. Tout est effleuré, voilà, même la troisième partie, enfin toutes les parties étaient à peine effleurées. Et voilà quoi. Il y avait guère que la première partie qui était vraiment une bonne introduction. Et puis après le reste, c'était du vite fait, vite lu, et bon, on sent trop que il délivre simplement un pitch pour que ce soit adapté au ciné, et puis basta. Après, il va passer à autre chose.
Oui, alors là, par contre, s'il y a une adaptation ciné de ça, ça va faire mal hein, au niveau budget.
Ben ouais. Bien alors, oui, je sais pas. Écoute.
Ouais, ou alors un dessin animé, mais alors je sais pas là.
Bah
bon,
tu sais,
cas,
moi ça me rappelle le dernier Men in Black où il fait des sauts dans le temps et où tout change. Tu sais, enfin voilà, ça a pas dû non plus coûter super cher. Hein. Maintenant avec les effets spéciaux, tu peux faire.
Oui,
des...
oui, tout à fait. Ouais, enfin voilà. Bref, dans tous les cas, voilà, c'était fun à lire, c'était parce que le pitch était rigolo. Par contre, ouais, en fait, au niveau de, enfin, comme tu dis. Si tu fais une histoire de voyage dans le temps, essaie au moins d'appliquer les mêmes règles pendant les 4 épisodes, quoi. Je sais pas, ça me semble la base. Voilà.
Terminator aussi, il avait fait ça.
Oui, mais bon. Fin...
Ben, on voit comment il a fini, hein.
Voilà. Bref. Je vais.
Genesis, quoi.
Hein?
Genesis.
Oui, Genesis.
Oh, bon, on l'a pas encore vu, hein.
Nous montre à quel point le futur on chie dessus, quoi.
Non, ça va être un très bon divertissement.
Mais moi, le seul truc qui me pose problème avec Genesis, c'est le côté où ils ont embauché, alors j'ai oublié le nom de l'actrice, là, pour jouer
oui,
Sarah Connor.
Oui, bah, Daenerys, on va l'appeler comme ça.
Daenerys, ouais, voilà, Emilia Clarke.
Ah oui, Emilia
qui
Clarke.
Est très jolie, mais alors je suis désolé, tu regardes Sarah Connor dans les années 90, la meuf, elle avait des muscles et puis elle était badass, quoi. Emilia Clarke, elle est très jolie. Voilà, c'est un petit peu une différence de point de vue sur les femmes dans le cinéma, quoi. Bref, on va peut-être fermer la parenthèse
oui.
pour en revenir à la note.
La note et puis avancer, oui.
Ça aurait été un pass s'il n'y avait pas eu Sean Murphy, donc un check it. Voilà.
Et sur l'ensemble de la mini?
Prout, prout, tralala.
Ouais, non, un petit bail.
Petit bail en
bail,
TP, quoi.
Voilà. Si vous aimez beaucoup le dessinateur et que vous attendez pas un gros truc, mais juste à du fun, rire un peu, voilà. Un bail.
Pareil.
Même petit.
Pareil.
Allez, on passe à un nouveau projet de chez Dark Horse, ça s'appelle Midnight Society The Black Lake, puisque c'est un sous-titre à cette première mini en 4 épisodes, une série de Drew Edward Johnson, au scénario et au dessin. Nouveau projet chez Dark Horse, qui pourrait, en quelque sorte, si elle est plutôt bien amenée, cette franchise, devenir, pourquoi pas, quelque chose que l'on a dans Hellboy et B.P. Hardy. Mm. C'est vraiment cette inspiration là que j'ai vu que j'ai senti tout au long de cet épisode. On commence il y a peut-être une quarantaine d'années à peu près vu le vieillissement des personnages que l'on verra par la suite. Deux explorateurs qui sont des explorateurs du mystique et des monstres des cryptozoïdes hein, comme on les appelle, c'est-à-dire ces monstres qui, comme le Yeti etc. sont dans des cavernes à la recherche d'un espèce de d'elfes, trolls, on sait pas trop. Finalement, on s'aperçoit que c'est un espèce de lutin bleu qu'on dirait qu'il a croisé qu'un extraterrestre. Et, une décision va faire que ces deux amis vont d'une pas mal se séparer en termes de point de vue et surtout avoir des répercussions sur le présent. Puisqu'on le voit bien dès la fin de cette première séquence qui prend, on va dire, la moitié du comic, hein, la séquence passée. Mmh. Et puis, donc, flash sur le présent et on va suivre Mathilda Finn qui est une enquêtrice, un agent spécial qui fait partie d'une organisation assez étrange où l'on retrouve un de ces deux gars que l'on voyait au départ qui a bien vieilli, qui est à la tête de cette organisation qui s'appelle le MI Omega et qui continue de chasser les monstres. La particularité de tous ces monstres qu'ils chassent, c'est notamment la façon dont ils le chassent, la façon dont ils sont dont leur QG est caché, quoi. C'est c'est Ant-Man, quoi. Mm.
C'est une utilisation intelligente des pouvoirs d'Ant-Man.
Voilà, tout est miniaturisé et du coup passe totalement inaperçu aux yeux des gens. Mm. D'ailleurs, on revoit ce petit monstre du début. Je sais pas si tu as fait gaffe hein, sur la page à échelle humaine en tout cas, c'est tout petit, quoi.
Oui, non mais de toute façon, même moi ça m'a surpris justement à la fin de l'intro. Qui était très longue hein, effectivement cette intro au final quand on arrive dans le présent, j'ai même été surpris, j'avais zappé tu lis le truc dans le passé, tu t'attends à ce que tout le comic soit dans le passé au final vu combien cette intro est longue, mais elle finit avec justement un effet d'agrandissement où tu dis ah en fait tout ça c'était tout miniature, tout petit et tout, et tu repenses le truc différemment que ce que tu viens de lire, tu le repenses différemment.
Complètement, on s'y attend pas du tout, et c'est très
malin. Ouais, je m'y attendais pas du tout, et je trouve ça très sympa, quoi. Et puis pareil, après, effectivement, quand tu découvres le MI Omega,
ce QG, excellent.
Ouais, le QG, sur le coup, tu dis, bon, elle est téléportée parce que tu vois une grande lumière, et quand, à la fin de la séquence,
tu vois où ils sont?
Tu vois où ils sont? Ouais, là, c'est cool, quoi, tu dis, ouais. Et là, effectivement, dans ce truc-là, je me suis dit, ok, il y a un bon potentiel dans cette série, dans le côté, justement, Hellboy, mais dans le côté, un petit peu, justement, Ant-Man, et un peu des trucs comme Kingsman, ou...
ces organisations secrètes, voilà.
Alors, moi, je me suis pas du tout dit ça, mais je l'ai pas lu.
Le personnage principal, Mathilda Finn, a l'air d'avoir... des choses dans son passé qui en font une personne à part, qui n'est pas complètement humaine, assez étrange. Du coup, elle va être envoyée sur une mission dans le Loch Ness pour récupérer l'autre explorateur que l'on voyait au début du comic, qui a disparu puisqu'il essayait de prouver que le monstre du Loch Ness existait et prouver sa théorie comme quoi c'est un monstre qui se reproduit seul et qu'il ne peut y en avoir qu'un à tout moment donné de l'histoire. Dès qu'il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui apparaît, en tout cas il se reproduit et voilà. Et il voulait prouver cette théorie, et donc il a disparu, elle va devoir aller le chercher. Malheureusement, la fin est assez abrupte, je trouve, n'a pas vraiment de cliffhanger. Cependant, l'ensemble du numéro donne assez envie d'aller voir la suite, en tout cas pour moi. Tu n'as pas été autant séduit, je crois, toi, Kiwi.
Moins que toi, mais je pense que c'est...
Mais plus que moi.
Oui, plus que toi, c'est assez sûr. Mais c'est vrai que justement le cliffhanger de fin qui n'en est pas réellement un, c'est t'as l'impression que c'est juste bon mais
Que c'est un graphique novel qui a été découpé.
On est arrivé au bout des 25 pages donc on va s'arrêter là.
C'est ça ouais, c'est un graphique novel qui a été découpé totalement.
Voilà et du coup c'était un peu frustrant où tu dis là concrètement quand je m'arrête j'en ai rien à foutre. Enfin voilà quoi, c'est elle est en train de discuter sur un bateau. Fin, à suivre.
Ouais, c'est ça.
Ouais, enfin, elle est en train de discuter sur un bateau. Très sincèrement, c'est pas ça qui me donne envie d'aller acheter la suite, quoi. Voilà.
Putain, moi ça me donne vachement envie là d'un seul coup là.
Ouais,
Si ça
parce
se
que
termine
t'adores
par
les
une
meufs.
meuf qui discute sur
Allez,
un bateau,
attends, faut dire que
je
t'adores les
l'achète
meufs qui
tout de
discutent
suite.
sur des bateaux. Et
Bah
en
ouais.
plus, elle porte un pull.
Moi, oh.
Ouais, hein,
Honn
un bail.
honnêtement, le cliffhanger qu'il y avait à la fin de la séquence passée était plus touchant, je trouve, et m'a mis mal à l'aise, moi, émotionnellement. J'étais pas bien.
Ben, après, je trouve ça intéressant justement le côté. Alors, j'espère que ça va pas être à coup de flashback, justement passé présent. Enfin, c'est une
J'espère
narration, la moitié
aussi,
dans
ouais.
le passé, la moitié dans le présent, parce que là, du coup, ce serait très chiant. Mais voir justement comment une ancienne amitié dans le passé impacte le présent, je trouve ça très intéressant dans ce contexte-là de scientifiques qui ont des points de vue différents sur la science.
Je vais vous laisser
Ouais.
discuter ensemble de ce comique, hein, je pense.
Mais oui, non, mais c'est très bien écrit et on n'a pas parlé encore des dessins, mais putain, qu'est-ce que c'est beau.
Ouais, c'est très détaillé, très alors un dessin tout au crayon, on va dire, à l'ancienne quoi, vraiment. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça, tu vois, le mec qui est vraiment à passer du temps sur sa planche,
Il a tout fait
à
à
faire tous
l'ordi,
les
mais comme un barbare, quoi.
la séquence du début
Ouais.
est beaucoup plus énorme, enfin beaucoup plus impressionnante visuellement. Après, les séquences de dialogue dans le présent, en tout cas au départ, sont peut-être un peu plus paraissent un peu plus fades, même si on a toujours ce très beau jeu de la couleur, parce que c'est vraiment on a aussi cette superbe planche où on découvre où ils sont, hein, dans le QG, qui est magnifique. mais
Très clairement, ouais.
mais voilà, c'est vraiment toute cette séquence dans la caverne au départ, ce monstre, etc. La colorisation en plus joue beaucoup. J'ai pas cité le coloriste, hein, qui est Lizzie John, mais magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors moi, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Ça m'a vraiment plu et bah finalement, ce sera mon petit coup de cœur de la semaine même, ce numéro 1.
Moi, ce sera simplement un petit bail, tu vois. C'est pas bon parce que c'est des. À voir comment c'est développé en fait. À voir le reste de la série.
Oui,
Parce que
voilà,
y a
c'est.
des, y a, y a, pour moi, voilà, il y a des choses prometteuses dans l'épisode.
Dans la vie, et ça en fait partie.
Mais j'ai pas été.
Là,
J'ai je me suis pas je me suis pas retrouvé à me dire ah ouais là je suis en train de lire un truc vraiment vraiment innovant ou vraiment sympa ou voilà c'était sympa oui c'était sympa mais c'était pas extraordinaire pour moi donc c'est un petit bail voilà
c'est presque un coup de cœur d'encouragement, hein, pour ma part.
je crois que c'est le
C'est
premier
voilà,
bail de
c'est.
l'émission quand même
Non, 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 j'ai donné un bail à Detective Comics 41
ah
aussi.
oui c'est vrai
oui mais pour l'instant en fait il y a que Steve qui donne des bails
Mais
voilà par contre
j'avais donné on va dire un check-in plus à Earth to Society,
Nous,
mais
on donne des
pas un
baffes.
bail. On continue avec toi, Benny, qui attendait patiemment de faire ta review, apparemment. Tu trépignais d'impatience.
Bah, ah,
Walking
mais il
Dead
se chiait
142.
dessus, en fait.
Voilà, c'est ça, ouais.
Attends-toi à ce qu'on t'interrompe souvent.
Oh, bah, vous pouvez, de toute façon, ça va se résumer en 30 secondes. Donc, vous avez 30 secondes pour m'interrompre. Donc, Robert Kirkman au scénario, Charlie Adlard au
C'est
dessin,
qui? C'est
Stefano
qui?
Godiano à l'ancrage.
C'est qui?
Des gens très bien.
T'as vu, il m'a pas fallu 30
Qui
secondes.
parfois vont aux toilettes et donc et qui même parfois dorment.
C'est
Donc
dingue.
c'est complètement fou.
Ils en
Et
ont de la chance, putain, ils en ont trop de la chance.
après ce dernier
Je les envie.
épisode avec un cliff qui était vraiment très très bon et un coup de théâtre vraiment très très bon, comme d'habitude, Kirkman nous fait une fois sur deux. Donc là c'est l'épisode bah sans trop d'intérêt. Surtout que ça s'attarde particulièrement sur les Whisperers et c'est vraiment le comment dire le scénario non non c'est vraiment le scénario qui est pas intéressant. Je sais pas du tout où il va avec cette intrigue et il y a surtout un gros problème d'hygiène dans son scénario. Voilà, c'est juste pas possible. Je vais pas continuer
Ouais, mais on
à
peut
en dire
voir le
plus.
lien, étant donné que déjà tu parlais des gens qui vont aux toilettes.
Voilà. Bah là franchement non quoi. Là d'un point de vue hygiénique, c'est juste pas possible.
Quoi, c'est une douche à la pisse?
C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est un concept. En gros, tu vis avec de la pourriture sur toi 24 sur 24 et voilà. Et dans un monde où il y a une infection comme ça, où tout le monde se transforme en zombie, non, non, c'est pas possible. Il y a un gros
Ah,
souci.
le mal pour contrer le mal.
Ben écoute, en tout cas là, faudra expliquer quoi. Enfin, je veux dire, ils doivent schlinguer, mais ça doit être pas possible. Mais justement, la scène finale. Est surréaliste, justement à cause de ça, tu te dis mais non c'est pas possible. Bon enfin bref, bof bof, épisode moyen, très franchement là ce sera juste un check-it pour ma part. Et l'épisode précédent était tellement bien que, enfin, il y avait tellement un cliff et un coup de théâtre surprenant que là, voilà, ça rebaisse en tension et c'est dommage.
Ah, tu parlais d'un cliff intéressant, moi je pourrais citer Cliff Burton, évidemment, que certains auront reconnu.
Et Cliffhanger, cette branche de comics.
Et puis, sinon, Heathcliff, hein, comme s'amusait à le chanter
White
Kate
Cliff.
Bush, dans Wuthering Heights. Et oui, les hauts du hurlevent, parce qu'on peut avoir aussi de la culture littéraire quand même.
Juste un peu alors.
Mais juste un peu, voilà. Allez, on termine notre partie indé avec Descender numéro 4 de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Je vais reprendre un petit peu la situation très très vite. Un monde où les robots, enfin on est dans le futur, hein, les robots étaient des compagnons, etc. Puis sont intervenus les Harvesters, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils voulaient. En tout cas, tous les robots se sont révoltés et ont commencé à tuer les humains, ce qui fait que les robots se sont tous fait dégommer, vivent sur des mondes un petit peu isolés et sont pourchassés par des espèces de, on va dire, de mecs qui travaillent un peu à la casse, quoi, des espèces de ferrailleurs de l'espace qui veulent récupérer les parties, etc. Et une organisation essaye de comprendre pourquoi les Harvesters sont venus. Ils ont réussi à retrouver un androïde qui n'a pas été contaminé, qui n'a pas pété les plombs. Ce petit Team 21, qui est le personnage principal, qui a déjà, en trois épisodes, était mort, finalement, a atteint un autre plan d'existence, rencontré des robots qui veulent qu'il le libère, et a été sauvé. Et cette fois-ci, il est en route avec le fameux UGC, donc cette organisation qui essaie de comprendre...
Ah, qui font du cinéma.
Je pensais tellement
aussi,
à ça.
Il y a aussi les pâtés et les gaumons.
Voilà, je l'attendais tellement celle-ci. Qui essaye donc de... qui essaye vraiment de comprendre de pourquoi ces harvesters ont attaqué la population. Et puis, bah, malheureusement, une fois encore, les choses ne vont pas bien se passer pour Team 21 et tout l'équipage de cet UGC. On voit d'ailleurs hein, que... Il y a pas mal de petites choses qui sont mises en avant. Le personnage principal, le capitaine du vaisseau, j'ai plus son nom malheureusement qui me revient en tête. cette fille avec les cheveux rouges, c'est super chiant quand même. C'est vraiment super chiant d'essayer de se concentrer, de faire vite, alors que t'as un mec qui arrête pas de balancer des vannes. Quoi. Qui a donc son père, qui est le général principal de l'UGC. Il y a pas mal de petites choses comme ça, des petites mises en avant qui serviront le scénario pour la suite. C'est du Jeff Lemire, on sait que le mec clairement, il va quelque part, il va pas n'importe où et il a son plan bien en tête. Une nouvelle race nous est présentée et bien sûr, c'est le chaos à la fin de cet épisode. Le sort qui attend les personnages n'est pas très enviable. On atteindra le mois prochain la fin du premier arc. Reste à voir sur ce sur quoi ça va déboucher. Les dessins de Dustin Nguyen sont toujours très bons. En tout cas, sied parfaitement bien cette série, je trouve. Pour moi, c'est un bail, évidemment. Une très très bonne série que Descender, une très bonne série de SF. Pour Bunny, donc.
Oui, bah, mais non, mais il y a plein de SF que j'aime beaucoup. Hein.
De la SF que t'aimes beaucoup, comme Alien vs Predator, qui est le premier TPB de cette semaine, Transition de la mort.
Ouais, qui sort, alors là, par contre, je suis pas certain de cette affirmation, mais bon.
Tu aimes Alien, tu aimes Predator, tu les aimes juste pas ensemble.
Non, j'aime bien Alien, j'aime pas du tout Predator, j'ai jamais été fan de Predator.
Oh,
alors, ça m'a toujours emmerdé, mais vraiment.
En même temps, les Aliens sont bien meilleurs que les Predator.
Oui, puis les films aussi.
Voilà. Non, je parlais des films, hein, enfin.
Oui, bah oui.
Voilà.
Oui, on est d'accord.
Oh, Predator 2, les mecs, il est bien, quoi.
Oh non! Alors là, c'est plus chiant!
Oh, Predator 2, excellent!
Ah non, c'est plus chiant, je préfère encore le premier. Ou même le dernier, là, le je sais pas quoi, là. Le je sais pas quoi.
Alien versus Predator. Ouais.
Alien versus Predator.
Non, celui, bah, il y en a eu un en 2009, 2011 même, peut-être, je ne sais plus.
Un bon. Predator sans Alien?
Ah oui, un Predator sans Alien.
Tu me fais me poser des questions et c'est pas bien, monsieur.
Ouais, enfin,
pas bien. Mais... Bref, donc ce TPV de Predator, qui est donc Predator Alien versus Predator Fire and Stone, hein, dans cette grande branche, ce grand crossover qu'avait fait Dark Horse avec différentes franchises comme Prometheus, Alien, Predator et Alien versus Predator. Le TPB, donc Alien vs Predator, est sorti au prix de $15. Ça reprend l'ensemble de la mini-série de Christopher Sebela et Ariel Olivetti. Quant à ce que tu disais sur Predator, il y a, oui, Predators.
Voilà. Ah, voilà. Bah, c'était peut-être ça. J'avais bien aimé.
Voilà, ça laisse un silence. Ça laisse un silence gêné, quand même.
Bah, ouais.
Tu remarqueras. Toujours chez Dark Horse, BPRD 1946-1948, c'est du hardcover. Ça reprend justement les mini-séries 1946, 1947 et 1948 de l'univers BPRD. Ça vaut $35. Nous avons encore chez Dark Horse le Criminal Macabre Omnibus Volume 3, avec bah voilà la suite de ces différentes mini-séries écrites par Steve Niles. On a aussi du Christopher Mitten, du Scott Morse, du Michel Madsen. Ça vaut 25 $. Ici Archives Tales from the Crypt numéro 1.
Encore ?
Ben oui, un numéro 1, je comprends pas. C'est peut-être un espèce de best-of puisque ça comprend les épisodes les Crypt of Terror 17 à 19 et Tales from the Crypt 20 à 22 en totale couleur.
Ah, ça vaut c'est 50 $. Hein, c'est peut-être pour ça, peut-être encore une édition colorisée ou recolorisée.
Oui, c'est les premiers épisodes, les premiers numéros publiés par ICI, en fait, de Tales from the Crypt, et qui avait commencé dans Crypt of Terror, juste avant.
Ok, bon bah écoute.
Apparemment, hein, d'après ce que je lis sur la sollicitation, ça vaut donc 50 $. Nous avons maintenant chez, encore une fois chez Dark Horse, qui a sorti énormément de TPB, très très peu de singles, mais beaucoup de TPB cette semaine, Itty-Bitty Comics The Mask, par Art Balthazar et Franco. Cette série complètement déjantée, cette mini-série complètement déjantée sur The Mask, voilà, par le talent d'Art Balthazar et Franco qui font des comics pour enfants, mais pas que. Loin de là.
Sur The Mask et sur E.T. apparemment.
Non, c'est Itty-Bitty Comics.
Non, mais je sais pas.
Ça vaut 13 $. Voilà. Et enfin, un bouquin chez Dark Horse, un très 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 bon bouquin qui s'appelle Realms, the role-playing game art of Tony... Oh putain, je vais pas y arriver. Art of Tony Di Terlizzi, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'illustrations pour tout ce qui est jeu de rôle, et notamment les univers des Royaumes Oubliés, les univers de Magic, les univers de Magic the Gathering évidemment, hein, des cartes, voilà, Planescape, voilà, tout un tas de ses plus belles planches qui sont reprises dans ce bouquin. C'est un artbook, hein, c'est pas un TP. Ça vaut 40 $ et très très bon illustrateur que ce Tony Di Terlizzi. Chez Image, East of West, le quatrième TP sort avec les épisodes 7 à 19 ainsi que le one-shot The World, ça vaut 15 $, série de Jonathan Hickman avec des dessins de Nick Dracota. Nous avons aussi Danger Club, le deuxième TP, deuxième et dernier puisque la série s'est arrêtée, les épisodes 5 à 8 au prix de 10 $. Nous avons Odyssey, la nouvelle série de Matt Fraction et Christian Ward. Les 5 premiers épisodes de la série sont au prix de 10 $, un prix d'appel évidemment chez Image. Chez Oni maintenant, Six Gun Days of the Dead, l'entière mini au prix de 20 $. C'est toujours un peu cher les TP chez Oni malheureusement. Et puis chez Valiant, le deuxième TP de Rai, très très bonne série de Matt Kint et Clayton Crane au dessin. Le premier TP, premier volume est sorti en France, mais comme on ne sait pas quand sortira le deuxième, il est possible qu'il faille que vous vous rangiez sur la VO. C'est au prix de 15 $. Et enfin, pour les fans du Docteur, Doctor Who sort chez Titan Comics en hardcover, après donc ses singles. Doctor Who, le 12e Docteur, c'est donc Peter Capaldi dans le rôle de ce Docteur. Ça vaut 20 $, ce sont les épisodes 1 à 5. De la première partie de la série. C'est écrit par Robbie Morrison avec des dessins de Dave Taylor. Voilà pour les TP 1D de la semaine. On va terminer avec Marvel. Et on commence avec un des numéros les plus attendus puisque c'était un tie-in un peu innovant de The Secret Wars. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire. Je suis désolé. Il s'agit de Weird World.
Oui, alors par Jason Aaron et Mike Del Mundo. Alors, encore une fois, comme pour les autres reviews, en fait, le dessin, c'est magnifique. L'histoire, par contre, bah, que ça se passe dans l'univers du Battle World ou pas, franchement, on s'en fout un peu, quoi. On suit Arkon, donc il y a une sorte de Conan le Barbare qui a vaguement apparu dans quelques... Enfin, ici et là, dans quelques séries Marvel.
Un annuel des X-Men, notamment, où il tombait amoureux de Storm.
Voilà, par exemple, donc on sent que c'est vraiment le personnage hyper important dont tout le monde se souvient. Et là, bah, il tente de survivre dans un monde de fantasy, donc un monde un peu chelou, hein, comme on peut s'y attendre, où par exemple les orques vont avoir des canons laser. Donc bon, c'est de la fantasy un peu what the fuck. Et lui, il cherche juste à rentrer chez lui, point. Voilà, donc tout le comics va juste être qu'il se bat contre les éléments ou contre les créatures. pour essayer de rentrer chez lui, sachant qu'il comprend bien que bon bah c'est pas parti pour être gagné vu qu'il est sur un territoire dont les limites ne sont pas celles auxquelles il pouvait s'attendre. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait, je lisais ça et je me disais, mais quel est le lien avec Battleworld, franchement. Ben, le lien n'apparaît qu'à la toute dernière page et c'est un lien ridicule. C'est-à-dire que
Ouais,
c'est.
mais il n'y a pas besoin de lien, hein, forcément. Il y a des séries qui sont totalement à part.
Ouais, mais
Moi,
là,
j'en ai
c'est-à-dire
lu,
que tu.
mais.
Non, mais c'est là, tu ne vois même pas de personne. Enfin, le personnage que tu vois à la fin. Et le seul personnage vraiment de l'univers Marvel que tu peux reconnaître un peu, mais alors déjà il faut le connaître, hein,
Ah non, mais moi,
c'est.
j'ai lu, je te dis, une série, donc c'était en l'occurrence Where Monster Dwell. Et il n'y avait pas de, il y avait aucun personnage connu de l'univers Marvel dedans, quoi. Mais vraiment aucun. Même la fin, concrètement, c'était un explorateur qui faisait face à des dinosaures, et à des indigènes. Bon, bah voilà.
Ouais, bah là voilà, même topo, hein, c'est.
J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une gamme de comics à la Gotham, non, Demon Knights, comme chez DC dans les New 52, quoi.
Bah perso, moi je le sens bien comme. Attends, on vous rappelle un peu ce personnage pour le ramener tranquillement après pour le All New Marvel New, All New.
Voilà,
Arcane,
oui,
ça
parce
va
que
être difficile, quoi.
d'après ce que je me rappelle, un Weird World était censé rester. En tout cas, d'après les premières rumeurs, il était censé rester après.
Voilà, ça sent bien le truc. Bon, bah on utilise comme prétexte le Battle World, mais bon, il y a aucun lien avec quoi. Enfin, voilà. C'est-à-dire que là, jamais on va te parler de Doom, on va. Enfin bon, voilà.
Donc bah de la science fantasy hein, pour ceux qui ont envie de s'essayer au genre.
C'est ça, voilà, vous avez pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit de Marvel pour vous y engager, ça se lit comme ça, on va dire, hein. C'est sympathique, pas extraordinaire, mais sympathique. Un check-it, tout simplement.
On continue avec toi, Benny, tu nous parles de Marvel Zombies.
Par Simon Spurrier, un auteur vers lequel d'habitude je ne vais pas forcément, puisque c'est vraiment un auteur avec lequel j'ai du mal, et Kev Walker au dessin, avec une colorisation de Frank Darmata. Et on retrouve ce personnage du. Alors comment s'appelle-t-elle? Kiwi, tu l'avais tout à l'heure.
C'est Bloodstone, donc son prénom, je
Bloodstone,
ne
ouais.
sais plus, mais ouais, Bloodstone, elle était dans la série Next Wave de Warren Ellis.
Ah, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que. Voilà, Warren Ellis, donc forcément j'avais oublié. Enfin voilà, bon, un personnage au demeurant qui semble intéressant dans les premières pages. Qui est obligé d'exécuter l'un de ses hommes. En fait, elle bosse pour le Shield et elle exécute un personnage qui, le design, je m'en rends compte maintenant, me fait vachement penser à l'un des membres de l'Avengers Academy. Voilà, mais je me rappelle plus son nom, avec l'éclair là, sur son costume.
Ah, comment il s'appelait? Oui, bah, celui qui avait fait son coming out.
Oui, certainement. Certainement.
C'était
Je ne sais plus.
Striker de mémoire.
Oui, un costume tout noir et
Ouais,
une
ça doit être ça.
balafre sur la gueule, oui, c'est
Avec
le.
sa mère qui voulait qu'il soit à fond devant les médias, etc.
Bon bah là il a une fin assez triste, assez pathétique. Mais ces premières pages m'ont plu. Franchement, je suis rentré dedans sans problème. Mais alors après, qu'est-ce que c'est chiant? Elle fait face, bon bah on s'en doute, à des zombies, hein, de l'univers Marvel Zombies. Et puis il y a des flashbacks de son enfance malheureuse où elle était maltraitée par son père, et puis son père qui vivait avec des espèces de petits monstres, hein, je n'ai pas tout compris.
Alors, c'est parce que son père était un explorateur qui passait les 3/4 de sa vie dans un monde démoniaque. Et il lui a appris la vie, justement, pour s'en sortir dans ce monde démoniaque, puisque c'est toute la dynastie, en fait, de cette famille doit lutter dans ce monde démoniaque. Voilà.
Bon, et toujours est-il que dans son périple, elle se retrouve toute seule dans le monde des Marvel Zombies. Elle marche, et puis elle tombe sur un gamin chauve. Oui, bah oui, un petit gamin chauve
C'est important.
qui a un look assez particulier quand même, et qui voilà, qui arrête pas de se plaindre, qui pleure durant le comics, et puis elle lui dit faut pas pleurer, sinon je t'en colle une. Et puis c'est ça sur une quinzaine de pages. Voilà. Bon, il y a l'apparition, enfin ils sont, comment dire, ils sont confrontés à d'autres personnages, d'autres zombies de cet univers Marvel Zombies. Très franchement, ça m'a pas du tout donné envie d'aller voir la suite, surtout que, à la manière de beaucoup de comics que j'ai lus cette semaine, je sais pas, c'est la semaine maudite, j'ai trouvé ça super verbeux, pour ne rien dire, j'ai vraiment, je me suis dit, oh, mais quand est-ce que ça se termine? Et ça a été un soulagement quand je suis arrivé à la dernière page. Encore une fois. Voilà. Bon, c'est une espèce de, pas de road movies, mais en tout cas une espèce de périple comme ça. Ça me fait penser à Cable et à Hope quand ils étaient sur dans des mondes un peu désespérés. Bah là, c'est pareil, mais c'est pas intéressant. Enfin, franchement, moi, ça m'a pas captivé, voilà. Donc, j'ai envie de dire un pass ou un tout petit check-it à la limite.
Au niveau dessin, ça donne quoi? D'accord.
Kev Walker,
Bah,
bah c'est du Kev
c'est Kev
Walker,
Walker, c'était Avengers Arena. Voilà.
c'est pas mauvais, mais moi je suis pas, je dois l'avouer, je suis pas excessivement fan de Kev Walker. Bon, voilà, c'est pas mauvais. Il y en a qui
Ça arrive, hein,
adorent,
tu as le droit.
il y en a qui trouvent ça génial, Kev Walker. Bon, voilà, ça fait le job. Voilà. Mais bon, le scénario est vraiment pas top. Ça me donne pas envie de continuer.
On continue avec un tie-in What the fuck à Secret Wars. Il s'agit de Miss Deadpool and the Howling Commandos. C'est écrit par Gary Dugan avec Salva Espina au dessin. Et on va suivre un espèce de what if, hein, finalement, c'est annoncé comme ça. Quand Deadpool a rencontré sa future femme, Chicla, eh bien, il travaillait
C'est pas possible.
pour Dracula. Et là, malheureusement, dans cette version-là, ça s'est mal passé, puisque Dracula non seulement a décapité Deadpool, et voyons que ça ne l'a pas tué, l'a fait enfermer dans un coffre rempli d'acide qu'il a jeté au fond de la mer, donc grosso modo, adieu Deadpool. Et Chicla, elle est triste. Et elle n'a pas le choix. Soit elle se marie à Dracula et elle reste avec lui, soit il va bousiller toute sa famille. Donc comme ça, le mec au moins est clair. C'est...
Je pense que c'est un mari violent.
Non. Et c'est là qu'on découvre, après cette petite introduction en 2-3 pages, que l'on découvre qui nous raconte l'histoire, et il s'agit de Deadpool lui-même, en tout cas de son fantôme, qui nous présente cette histoire à la manière d'un Twilight Zone, d'un Tales from the Crypt. Voilà, c'est véritablement le narrateur qui revient à la fin pour sa petite morale. Et il va raconter, c'est lui qui va être l'auteur de toutes les cases, hein. Et qui va nous donner des informations sur qui est qui. Et on va découvrir ces fameux Howling
Avec
Commandos.
Marie-Ange Nardi.
Et ces Howling Commandos sont des gens très respectables, hein. Werewolf by Night, qui a quand même la particularité d'être un loup-garou qui a des pouvoirs de loup-garou la nuit. La momie vivante, hein, The Living Mummy, qui est beaucoup plus intéressante que les autres types de momies. Ce sont vraiment les descriptions de Deadpool, hein, Frankenstein qui est toujours cool, et voilà, etc., etc. Et on a Marcus le Minotaure with a symbiote. Eh oui, donc un Minotaure qui est effectivement, hein, comme tu disais, qui oui, représenté
qui est
comme
un
un centaure.
centaure.
C'est juste n'importe quoi. Et qui a le costume de Venom, enfin en tout cas qui a un Venom sur lui. Et tout ce petit monde travaille pour Dracula. Et le gentil homme invisible a trahi le Dracula et donc il se fait exécuter sommairement. Et Chicla veut aller ramener les corps de ses frères, en tout cas des membres de sa famille qui ont été assassinés par Dracula lui-même. Et voilà, elle va essayer de partir. Je vais pas en révéler plus parce qu'il y a quand même un joli petit twist sur la fin qui est plutôt intéressant. Moi, franchement, ça m'a fait marrer. C'est con, ça m'a fait marrer. Voilà, c'est faut pas chercher un comique qui soit très 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 intelligent, loin de là. C'est juste drôle. On a un Deadpool qui revient sur la fin, qui annonce son retour. Ce qui nous spoile déjà la fin de l'épisode 2.
Ah mais moi je te conseille, si tu l'as pas lui, c'est Deadpool Secret Wars.
Non, non,
Ouais.
j'ai pas essayé encore.
Qui, oui, tu t'en
Bah,
souviens, c'était vraiment.
c'est le même côté second degré qu'il y avait dans celui-là, en fait. Là, tu vois, tu parlais des petites remarques sur les personnages, sur les noms des personnages. Tout Deadpool Secret Wars, c'est ça.
Ouais, mais ce
En
qu'il y
fait,
avait là,
chaque case, c'est ce genre de réflexion, en
mais
fait.
ce qu'il y avait encore plus drôle,
Voilà.
c'était vraiment que ça se foutait de la gueule du premier Secret Wars et c'était très très bien fait quand même. Bon
Voilà, en
bah.
tout cas, moi j'ai passé un bon moment la lecture de ce truc-là. C'est décérébré, il n'y a absolument aucune mention de Secret Wars, c'est vraiment plus un what if qu'autre chose.
Oui, enfin,
ça me
tu
convient.
dis, t'as pas du tout, enfin, ça pourrait être de la série normale de Deadpool, voilà, quoi, sans aucun souci, quoi.
En fait, tant que ça fait pas mention de Secret War, ça me va encore, quoi. J'ai l'impression, non, mais j'ai l'impression, la semaine dernière, c'était pareil, je sais plus ce que j'avais lu, mais c'était pareil, quoi. Il y avait aucune mention de Secret War, c'était pas si mal. Tu l'avais lu aussi, Kiwi, je crois.
Oui, bah, comme toi, moi, ça m'a bien plu. Voilà, c'est du petit Deadpool sympa. Effectivement, j'ai préféré Secret Wars pour une série Deadpool. Voilà, là, c'est vrai que c'est, je connais pas tellement le personnage de, alors, Chicla, visiblement. Donc, bon, c'est, en fait, enfin, le Howling Commando m'intéresse plus que Chicla, et c'est Chicla quand même qui est au centre de l'histoire. Donc voilà. Mis à part ça, oui, c'est bien sympa. Je suis pas sûr d'aller voir la suite, mais peut-être, voilà. Je me tâte encore un peu, tu vois. Voilà.
Bah pour moi, ce sera un bon check-it.
Moi, un petit check-it. Ouais.
On continue avec toi, tu nous parles de Ghost Racers.
Oui, tout à fait, avec Felipe Smith au scénario et Juan Gedeon, sans doute, au dessin. Alors, très simple, c'est un monde du Battle World où tout tourne autour d'une course de Ghost Riders. Donc, il y a plusieurs Ghost Riders.
Bah, toutes les versions, hein, je pense, du personnage.
Non, pas du tout, parce que c'est des versions réinventées, en fait.
Oh!
Oui, voilà. Pour le coup, c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, les costumes changent et les voilà. Donc là, c'est pas les mêmes véhicules et
C'est pas
c'est
du
pas des
A-Force, quoi. Où ils se sont pas fait
voilà, c'est
chier,
pas
ils ont pris n'importe qui
exactement.
à n'importe quelle époque, en plus.
Ben
C'est
là,
ça
par
qui est bien,
exemple.
c'est ça qui est absolument cohérent avec Secret War, c'est que non seulement on a des moments dans l'histoire qui sont bien connus, et puis des moments qui sont sortis de n'importe où. Et on se dit, ça c'était une réalité Marvel, ah bon, enfin, quand c'était une autre réalité Marvel, ça? Voilà.
Ben
C'est le
après,
concept
vu
Secret
que.
War, fourre-tout de merde, quoi.
Ben après,
Bah, je préfère ça, hein. Je
si.
préfère ça, que je
Oui,
préfère un
que
Ghost
convergence, hein.
Racers qu'un E-Force qui prend des morceaux de tout et n'importe quoi, sans les réinventer. Je préfère quand c'est réinventé, quand il y a une réflexion, quand il y a des idées, quoi, tout simplement.
Voilà, moi j'ai toujours beaucoup aimé les What If et les terres parallèles, les versions parallèles des héros. Là pour le coup, c'est ça, c'est on va réinventer. Là par exemple, tu sais, t'as eu un Ghost Rider qui était un cavalier, vraiment sur son cheval.
Ah bah
Là
il est
c'est un
là.
centaure. Non,
Ah
c'est un
d'accord.
centaure ce coup-ci, voilà.
D'accord.
Mais voilà, tu vois, les personnages, tu comprends de qui on s'inspire, mais ils sont
Ah
un peu
oui,
retravaillés.
il y a même une variante cover avec lui, tiens.
Voilà, pareil, les vrais motards, donc Johnny Blaze et l'autre que tout le monde a oublié, leurs
Danny
motos sont,
Ketch.
voilà, leurs motos sont différentes.
Non, mais moi
Bon,
je l'aurais
c'est
bien
tout con,
appelé
mais voilà.
l'autre que tout le monde a oublié, ça lui va aussi.
Oui, parce que très franchement, tout le monde l'a oublié.
Bah, il a quand même été le Ghost Rider pendant un bon moment. Hein.
Ouais, mais tout le monde l'a
Ouais, mais
oublié
c'est un
quand même,
nom,
quoi.
hein, je trouve
Bah non.
qu'il sonne bien. Tu vois, c'est la classe. L'autre que tout le monde a oublié.
Ouais. Bref, ils font leur course. Bon, j'avoue que les BD qui parlent de courses de bagnole ou de moto, c'est très difficile de rendre cet aspect de vitesse ou d'ambiance en fait
Ouais,
que tu vas avoir.
très franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils aient essayé de surfer sur le succès de Fast and Furious, quoi, tout simplement.
Bah, rappelle-toi, la série All New Ghost Rider n'a pas forcément bien fonctionné, en plus avec les retards qu'elle a eu.
Mais là, par contre, voilà, le personnage principal va être justement
Nouveau.
voilà, le nouveau Ghost Rider, donc de
Robbie
All New Ghost
Reyes.
Rider. Merci, je cherchais son nom en même temps, Robbie Reyes. Perso, qui est un personnage que je trouve assez intéressant comme personnage, il change
Voilà.
un peu des classiques. Voilà, c'est le genre, c'est pas une copie de Peter Parker. Tu sens qu'il aurait pu faire partie d'un gang et que s'il y avait pas son petit frère handicapé pour le rappeler un peu du bon côté de la lumière. Ouais, il pourrait très bien faire partie d'un gang. Donc du coup, c'est un Ghost Rider adolescent, plutôt recherché, pas simplement, comme il y a eu quelque temps, tiens, on va mettre une meuf comme nouveau Ghost Rider, et puis c'est
Bah,
tout ce qu'on
est-ce
a à
qu'elle est là
dire.
justement, puisqu'apparemment il y a tous
Eh
les Ghost Riders?
ben, oui, je crois qu'elle fait une apparition à un moment, mais tout le monde s'en fout. Voilà,
D'accord.
écoute. Bon, ce qui est important dans l'histoire, la course dure quelques pages, pareil, ça donne pas grand-chose, c'est une course de bagnole en BD. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est
Le
la
Turbo
face.
Média pourrait être vachement intéressant là, justement.
Ouais, pourquoi pas. avoir effectivement dans d'autres formats. Toujours est-il que ce qui va être intéressant, c'est le côté une fois que la course est finie en fait, où on va voir que ben, Robbie Reyes, c'est le grand gagnant de la course des Ghost Racers. En fait, il ne fait que gagner. Et grand champion un peu du.
C'est normal, il a une voiture alors que les autres ont une moto. Il a juste à les bousculer un peu, il tombe.
Bah, c'est un peu ça, sauf que bah du coup tu
oh
vois
putain,
que tous
c'était
les
du total
autres,
hasard
les,
en plus.
tous les autres sont sont totalement. Non non, mais je rigole hein, quand je dis c'est un peu ça. C'est que oui effectivement c'est le seul qui a une bagnole
oh,
donc.
Comment
voilà.
Il s'est foutu ta gueule, tu as cru.
Bah ouais grave.
Complètement, je suis super vexé.
Bah y a de
oh,
quoi hein.
Mais faut pas être vexé.
Moi je m'en irais.
Ah ouais carrément.
Ouais. Mais bon je ne suis pas Steve.
Oh, je pense que Steve va quand même rester. Il a envie d'entendre un peu le truc. Hein. La fin non? Non, Steve veut me boude maintenant. Mais tant pis, je raconterai la fin quand même. Donc, Robbie Reyes, son problème c'est de trop gagner et il va s'attirer les foudres
de Thor.
D'Arcade, qui bah, forcément, qui gère les jeux. Et surtout, quand on découvre comment Arcade fait pour motiver ses participants, on se dit que être dans sa ligne de mire, c'est pas bon. Voilà. Donc vraiment un numéro d'exposition, mais finalement beaucoup plus sympa que ce qui semblait annoncé. Voilà,
ah mais c'est ça c'est intelligent d'avoir lié donc en fait c'est lui qui organise ses jeux comme comme dans
oui,
Planet
comme pour les exactement. Mais c'est pas le même arcade, hein, c'en est un autre.
Ah ça par contre c'est un peu con quand même.
Ah ben bah, c'est ouais, comme toujours, c'est Arcade qui dirige les jeux.
Ils
voilà.
auraient pu mêler les deux univers, hein. Voilà ça aurait
Ou
été.
Ou alors si c'est le même arcade, je l'ai pas reconnu. Hein. Mais logiquement, ils peuvent pas, puisqu'ils ont interdiction de passer d'un territoire à l'autre.
Oui, mais.
Sauf pour ceux qui ont des sauf-conduits.
Oui, mais le voilà,
oui,
exactement. Non, mais le mec, s'il retransmet par écran, etc., je veux dire, il pourrait être dans plusieurs mondes. Si c'est un gars de la télé, par exemple, Arcade.
Ça aurait
oui,
pu être Mojo aussi.
Ça aurait
hein,
pu être Mojo, effectivement.
Oui. Mais enfin, bon, là, en tout cas, ça a l'air d'être l'arcade juste de cet univers-là. Voilà. Bon, bah finalement, une exploitation intéressante du concept des Ghost Riders.
Enfin, c'est
voilà.
les fameux bon. Jeux d'arcade, quoi.
Ouais, on sait qu'avec arcade, ils vont en avaler des bornes.
Oui, tout à fait.
Insert coins.
Voilà.
Oh là là. Bien.
Voilà,
bye.
Donc,
bye bye, même. À ce niveau-là.
Petit
bye
ou gros check-it.
Petit bye. Ouais, d'accord.
Voilà, faut quand même s'intéresser un petit peu aux Ghost Riders pour, voilà, ou, pareil, avoir, s'intéresser au nouveau Ghost Riders, en tout cas à Robbie Reyes, puisqu'il est vraiment au centre du récit tout le temps. Voilà.
On continue avec Secret Wars 2099, Benny.
Ouais, par Peter David et puis Will Sliney au dessin avec Antonio Fabella à la colorisation. Alors on suit toujours cette équipe très très space de Avengers version 2099. Une équipe totalement, on s'en rend compte encore plus avec cet épisode, manipulée par Miguel O'Hara, qui est un véritable enfoiré hein, dans cette réalité, qui les manipule tous avec la phrase, d'ailleurs c'est assez drôle, Avengers Assemble, quand il suffit qu'ils disent ça et puis voilà, ils passent en position on-off, peut-on dire. On sent toujours qu'il y a des grosses parts d'ombre par rapport à tous les personnages qui constituent cette équipe. Moi, ça me fait pas mal penser à... C'est marrant parce que c'est l'une des marottes de Peter David. Toujours faire quelqu'un, en fait, qui dirige une entreprise comment dire... ça fait penser
Corporation, c'est le mal.
Ben, ça fait penser au Panthéon, rappelez-vous donc cet arc avec Hulk au début des années 90. Ça fera aussi penser à l'entreprise Serval de All New X-Factor, avec toujours un dirigeant, tu vois, on sait pas trop si il est du côté des bons ou des méchants. Et ça fait aussi penser à Factor X, la période où ils étaient gouvernés, enfin ils étaient contrôlés par le gouvernement.
Avec
voilà.
Avec Val Cooper hein, qui servait d'agent de liaison.
Exactement, exactement. Et
c'est aussi normal. Enfin, je veux dire, ça fait partie des méchants les plus intéressants puisque ils sont clean sur le devant et il faut trouver un maximum de preuves pour arriver à les faire tomber.
Non, mais c'est marrant.
Tu peux
mais...
avoir autant des intrigues hyper action que des intrigues hyper corporatistes.
Oui.
Tu peux vraiment faire un maximum de choses différentes avec un seul et même antagoniste.
Mais ça fait partie des tics d'écriture de Peter David.
C'était le cas aussi dans Spider-Man 2099 avec Alchemax. Hein.
Ouais, c'est un scénario. Bah là, c'est Alchemax mais c'est un Alchemax vraiment nouvelle version et assez corrompu. Voilà,
Bon, c'était déjà le cas dans la première version de Spider-Man
Ouais.
2099, hein.
Oui, non, mais sauf que là, c'est Miguel O'Hara, quoi, qui est quand même passé du mauvais côté.
Bah, c'est ça l'intérêt, je pense, peut-être de cette série, c'est de voir le personnage que tu as toujours suivi devenir la pire ordure, quoi.
Voilà. Et là, ils font face au Hulk 2099, et il n'est pas tout seul. Je vous laisse découvrir cette équipe qu'on découvre sur la dernière page et qui tease le prochain numéro. Ma foi, point de vue tie-in à Civil War, oh putain, à Secret Wars, à chaque fois je me gourre, je sais pas pourquoi. C'est le meilleur tie-in que j'ai lu cette semaine. Bon, voilà, semaine très pauvre en ce qui me concerne, mais heureusement il y a ça qui est pas trop mal. Je vais dire un petit bail.
On termine avec toi, Kiwi, hein, qui, comme je le disais en intro, continue de s'infliger cette série, alors que tu disais avec Bruno la dernière fois que c'était quand même pas très bon. Ultimate End numéro 2.
Oui, par Bendis et Bagley. Un bon comics où il n'y a rien dedans, hein. Tout simplement, Tony Stark parle avec Tony Stark, Peter Parker parle avec Tante May, et Hulk parle avec Hulk, fin de l'épisode. Voilà. Ouais, non, je me suis infligé en me disant, bon, allez, on va voir quand même. Il y avait ce truc un peu chelou autour de Tony Stark dans le premier épisode, le Tony Stark Ultimate, dont tout le monde parlait comme si c'est lui qui avait provoqué les entrechocs de Terre parallèle. C'était assez étrange. Donc je me suis dit, bon, allez, on va tenter, hein. Bah, c'est un épisode qui ne fait absolument rien avancer, tout le monde blablate. Voilà. Donc il y a rien dedans, vous pouvez passer votre chemin. Tout
Et
simplement.
dire que si ma mémoire est bonne, c'est en 5.
Ah ouais, mais alors là c'est vrai, c'est vraiment un épisode où tu dis, bon, à la limite tu le lis en français au milieu d'un magazine, t'as 2-3 épisodes, ça passe, mais à lire tout seul comme ça, je veux dire, t'as quand même plusieurs pages de juste Peter Parker qui est avec Ultimate Tante May, Ultimate Gwen Stacy, à dire, ah ouais, ça fait bizarre parce que t'es quand même plus jeune que ma Tante May. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais on sait bien que t'es pas notre Peter. Ouais, ça fait bizarre, mais ça fait plaisir.
Waouh!
Ouais!
Quel homme, quel dialoguiste!
Oh, putain! Et pareil, et Tony Stark en mode, Eh, je suis beau, je me masturbe. Ouais. Ok.
Est-ce qu'ils se masturbent l'un l'autre? Parce que finalement, est-ce que ça reste de la masturbation si tu masturbes ton toi parallèle?
Alors, est-ce que si tu couches avec ton toi parallèle, c'est de la masturbation ou c'est de l'homosexualité?
Ah,
Ou est-ce que
ces
c'est de la
questions
monosexualité? Tu
de
vois?
là?
De la monosexualité.
En tout cas, c'est des questions totalement métaphysiques auxquelles nous vous invitons à répondre en commentaire.
Non, c'est de l'onanisme.
Oui, bah ça revient au même que de la masturbation. Hein.
Ah oui, non mais c'est ça, oui, non, exactement. C'est de la
Voilà,
masturbation.
donc.
Bref,
Bref, un gros passe.
comment nous sommes écartés du sujet, donc, un passe?
Oui, un gros passe. Voilà, y a rien dans cet épisode. Voilà.
Allez, on termine avec les TP Marvel de la semaine. Évidemment, je ne vais pas parler de ce qui sort déjà chez Panini, puisque c'est disponible en français. Nous avons Deadpool par Pozen et Dugan. Oui, ça sort en français, mais là, c'est un gros hardcover. Ça prend les épisodes 13 à 25 pour ceux qui veulent se faire la complète en gros volume. 35$, hein, toujours dans cet équivalent de collection Epic Collection, d'ailleurs, c'était le nom de cette collection. Nous avons aussi Marvel Masterworks Fantastic Four Hardcover volume 17 au prix de 75$, numéro 176 à 191 de la série. Du coup, c'est vraiment très cher, hein, mais c'est la collection Masterworks, celle qui est vraiment de très très bonne qualité. Et puis d'ailleurs, c'est la seule façon de voir encore les quatre fantastiques ensemble. Voilà, c'est dit. Et puis, à croire qu'un film va sortir, puisque deux TPB Ant-Man. Le premier s'appelle Marvel's Ant-Man Prélude, qui est donc un prélude au film, pour ceux que ça intéresse, avec la mini-série Ant-Man Prélude qui était en deux numéros, le Ant-Man Cinematic Infinite Comic, le Marvel Premier 47-48, Ant-Man numéro 1 et le Age of Ultron 10 AI. Tout ça collecté au prix de 15$. On a vraiment bourré avec n'importe quoi pour arriver à faire un TP. et vendre un peu plus de
c'est tellement ça quoi.
Un peu plus de Marvel's Present là, prélude au film, parce que ça se vend pas clairement. Et puis un autre TP qui est un peu plus intéressant, qui est un peu un fourre-tout de pas mal d'histoires, c'est Ant-Man Scott Lang. Ça vaut $25 et ça va reprendre différentes histoires à travers le différents numéros à travers l'histoire, voilà, des aventures de Scott Lang. Alors, on a notamment du David Michelinie et du Bob Layton. Marvel Première 47-48, tiens, là aussi, oh, deux fois dans deux TP différents. On a Iron Man 131-133 ainsi que le 151, les Avengers 195-196-223, Marvel Team Up 103, Marvel 2-in-1 87 et du matériel d'Avengers 181 et d'Iron Man 125. Voilà pour être totalement complet sur ce Ant-Man Scott Lang qui va vous narrer un petit peu les premières apparitions de Scott Lang et ses histoires emblématiques, ses vieilles histoires emblématiques en tout cas. $25 pour ce TP. Et ça conclut notre 249e Comics Weekly, j'ai un peu de mal. On se retrouve pour ceux qui seront présents au Comic Con de Lyon aujourd'hui, hein, pour ceux qui écoutent l'émission dès la sortie, et puis c'est déjà passé pour ceux qui l'écouteront après ce week-end. C'est ce qu'on appelle une fin utile.
Oui, parce que le côté, oui, on se retrouve au truc qui est déjà passé. Bon, si vous avez une machine à voyager dans le temps, c'est cool, mais sinon.
Bah, regarde dans Chrononauts, ça existe. Hein.
Oui, ça existe dans les pages d'un comics. C'était pas la réalité. C'est pareil, tu peux conduire une DeLorean aussi vite que tu veux.
Mais pourtant, d'après Grant Morrison, les comics influencent la réalité. Enfin,
tu pourras te retrouver ailleurs très vite.
Oui, voilà. Tu voyages dans l'espace-temps. T'es en plus zonzon. Tard, plus loin. Mais voilà.
En zonzon. Parce que quand tu y ressortiras, le temps s'en sera écoulé. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine dose de review. Il y aura encore du Secret Wars, des nouveaux titres d'essai évidemment, et puis des petites perles en indé, comme chaque semaine. Comme d'habitude, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, et puis vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes. Et pour les mails, c'est l'adresse podcast@comiccity.fr. Très bonne fin de semaine, très bon week-end au Comic Con pour ceux qui y vont. Et puis, rapport de ce Comic Con mercredi dans le Weekly News. Vous nous ferez un petit détail de ce qui s'est passé durant ce week-end, Benny, et puis ouais. Tous ceux qui y auront été, évidemment.
Exactement.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao!
Ciao! And you head